Il est 7h.
Je serai, et je vous le promets, le président de tous les Américains. Tous les Américains.
Joe Biden va tenter de réconcilier une nation divisée. Appel à l'unité lancé hier lors de son investiture à Washington. Que s'est-il passé ensuite? On vous le raconte dès le début de ce journal. Quant à Donald Trump, il a rejoint la Floride où il commence sa nouvelle vie d'ex-président. Objectif numéro 1, trouver une nouvelle maison, mais aussi préparer son retour. Luge et peau de phoque, oui, mais remontée mécanique, non. Le coup près est tombé pour les stations de ski, pas de réouverture pour les vacances de février.
C'est toute l'économie qui tourne autour du ski et des remontées mécaniques. C'est pas les luges et les raquettes qui font le chiffre d'affaires, c'est pas ce qui remplit la caisse à la fin de la journée.
La détresse des étudiants, ils sont descendus dans la rue hier. Rencontre avec Lucas qui se rend tous les jours à la fac alors que les cours sont en distanciel. Et puis savez-vous qu'Amazon s'intéresse au foot français? Le géant américain pourrait se positionner pour diffuser la Ligue 1.
Juste après ce journal, l'éclairage écho de Nicolas Barré. Joe Biden ne parlait pas d'investiture mais de sacre. Le regard international de Vincent Hervouet. Parfum de crise à Marseille, c'est l'édito sport de Virginie Fulpin. Avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Joe Biden passe sa première nuit à la Maison Blanche. Celui qui est désormais le 46e président des États-Unis a prêté serment hier sur les marches du Capitole à Washington. Dans son discours, il a ensuite multiplié les appels à l'unité avant de rejoindre le cimetière d'Arlington avec la vice-présidente Kamala Harris.
Il a retrouvé les anciens présidents Obama, Bush et Clinton sur la tombe du soldat inconnu pour une nouvelle image de réconciliation, de rassemblement. Alexis Guilleux, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux à Washington. Joe Biden a ensuite rejoint la Maison Blanche.
Oui, le président a tout de même fait les derniers mètres à pied devant sa famille, main dans la main avec son épouse Jill Biden. Pas de grande parade populaire comme le veut la tradition. Pour raisons sanitaires et sécuritaires, le public était tenu à distance derrière des grandes grilles où étaient regroupés plusieurs Américains comme Scott, venus pour tenter d'apercevoir le président. On veut juste être aussi près que possible. On regarde sur notre téléphone quelque chose qui est en train de se passer, je ne sais pas, à 200 mètres de nous, pour célébrer ce qu'on aperçoit au loin. J'aurais aimé voir ça, mais c'est dur de ne pas sourire aujourd'hui. Le public tenu à l'écart, Joe Biden a pris possession du bureau ovale avec la signature de ses premiers décrets, 17 au total. Je vais commencer par tenir les promesses faites au peuple américain, explique le président, attablé à son bureau devant des photos de ses proches. Port du masque obligatoire dans les bâtiments fédéraux, arrêt de la construction du mur à la frontière mexicaine et retour au sein de l'accord de Paris sur le climat. Joe Biden défait les mesures phares de Donald Trump. Il ajoute que son prédécesseur lui a bien laissé une lettre avant de partir, comme c'est la tradition. Une lettre généreuse dont il ne dévoilera pas le contenu avant de l'avoir remercié. Puis tout s'est terminé par une soirée télévisée animée par Tom Hanks. Joe Biden et Kamala Harris sont apparus en direct du Lincoln Memorial pour appeler à l'unité de la nation. Le tout conclu par Katy Perry, son tube Firework et un immense feu d'artifice dans le ciel de Washington.
Merci Alexis Guilleux à Washington pour Europe 1, émission qui était d'ailleurs diffusée sur la plupart des grandes chaînes, mais pas sur la conservatrice Fox News qui ne s'est pas privée de critiquer les messages de Joe Biden.
Donald Trump, lui, avait déjà rejoint sa résidence en Floride. On ne sait pas quelle chaîne il regardait hier soir. Bonjour Xavier Yvon.
Bonjour.
C'est donc une nouvelle vie qui commence pour l'ancien président.
Oui, une nouvelle vie commence au chaud hein, dans sa propriété de Palm Beach en Floride. Mar-a-Lago, c'est un petit palais de style italien planté au milieu des palmiers. Un club privé où l'on paye cher pour pouvoir dîner dans le patio au bord de la piscine, pas loin de la table de Donald Trump. On sait qu'il affectionne cette atmosphère de cour. Un des proches de Donald Trump avec qui j'ai discuté m'a confié que l'ex-président n'allait pas rester à Mar-a-Lago. Il ne dispose en fait là-bas que d'une chambre et d'un salon. Le reste des 120 pièces est occupé par les membres. Et puis certains voisins ne veulent pas de lui. Ils ont fait valoir devant la mairie que la propriété n'était pas qualifiée pour devenir une résidence principale. Donald Trump devrait donc d'abord chercher une maison. Ses enfants aussi ont décidé d'élire domicile en Floride, notamment sa fille Ivanka et son gendre Jared Kushner qui ont acheté un terrain sur une île privée de Miami pour 30 millions de dollars, comptant encore nombre de supporters en Floride, dont le gouverneur. Les Trump y trouveront une terre plus hospitalière que Washington et surtout New York où ils vivaient avant et où ils ne sont plus les bienvenus.
Xavier, avant de prendre l'avion pour la Floride, Donald Trump avait lancé cette phrase d'une manière ou d'une autre, « Je reviendrai », qu'est-ce qu'il faut comprendre ?
Mais il faut comprendre que Donald Trump veut continuer de peser fort de sa base de fans fidèles. Alors on lui prête depuis longtemps l'intention de créer son propre média, une télé notamment. Il pense aussi à créer un nouveau parti politique selon une info du Wall Street Journal. Il aurait déjà le nom, le Patriot Party, et l'ex-président n'a pas exclu une nouvelle candidature à la Maison-Blanche dans 4 ans. Mais tout ça va dépendre aussi de son avenir judiciaire. Donald Trump, vous savez, est sous le coup d'un impeachment, il va être jugé par le Sénat, qui pourrait lui interdire de se représenter. Et puis il est aussi sous la menace de poursuites judiciaires, notamment par le parquet de New York encore, pour de possibles fraudes fiscales et bancaires.
Voilà, peut-être bientôt un Patriot Party. Xavier Yvon, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux aux États-Unis, un pays où le bilan des morts du Covid dépasse désormais celui des soldats américains tués pendant la Deuxième Guerre mondiale. Plus de 405 000 décès.
7h06 sur Europe 1. En France, les chiffres ne s'améliorent pas. 2842 patients en réanimation. Ça ne cesse d'augmenter depuis 10 jours. La décision du gouvernement n'est donc pas vraiment une surprise. Les stations de ski ne pourront pas rouvrir début février.
Oui, et sans doute pas non plus pendant les vacances scolaires. Coup dur pour un secteur qui emploie jusqu'à 400 000 personnes. Une annonce vécue comme une catastrophe dans la station du Val d'Alos, dans les Alpes de Haute-Provence, où s'est rendu Frédéric Michel.
Dans les rues enneigées, mais quasi fantômes de la Foudalos, Jean-Claude se dépêche de rentrer avant le couvre-feu, résigné après l'annonce du gouvernement.
Ça fait 40 ans que j'enseigne à la Foudalos, ce sera la première année où je ne fais pas de ski. Il y aura beaucoup de commerces qui vont déposer le bilan sûrement au printemps, au début de l'été, ça va être dur, dur.
Même s'il avoue que les aides de l'État sont conséquentes, Raphaël, qui vend et loue du matériel de ski, est inquiet.
C'est toute l'économie qui tourne autour du ski et des remontées mécaniques. C'est pas les luges et les raquettes qui font le chiffre d'affaires, c'est pas ce qui remplit la caisse à la fin de la journée.
Février, c'est le plus gros mois de l'année en station. Un tiers du chiffre d'affaires de la saison est réalisé durant cette période. Michel Lantelme, le maire d'Alos, ne décolère pas.
On est bientôt à un an. L'an passé, on a fermé le 15 mars. Aujourd'hui, saison 2020-2021 inexistante. Donc 100% de pertes pour notre exploitant de remontée mécanique. 90% de pertes pour les loueurs de ski. 80% pour les hôteliers. 100% de pertes pour les restaurateurs. Aux énarques et à ces technocrates, si on leur proposait de vivre avec 10% de leur salaire, est-ce qu'ils seraient capables de le faire ?
À la montagne. On s'apprête donc à vivre une saison blanche, rageant alors que la neige tombe en quantité. Le Val d'Alos, Frédéric Michel, Europe 1.
Et Jean Castex recevra les professionnels de la montagne dans les jours qui viennent pour renforcer les mesures de soutien.
Colère et déception des professionnels de la montagne, déprime des étudiants qui manifestaient hier dans toute la France.
Oui, Emmanuel Macron est attendu tout à l'heure à l'université de Paris-Saclay où il rencontrera des jeunes qui devraient exprimer ce mal-être. Plus de lien social, d'autant que les cours se font à distance. Alors, chacun tente à sa manière de supporter la situation, comme Lucas que Pierre Herbulot a rencontré à Saint-Denis.
Là, nous sommes dans ma chambre, une armoire, un frigo, un bureau et un lit. Avec salle de bain comprise, 9 mètres carrés.
Il n'y a pas de barreau à la fenêtre, pourtant Lucas a l'impression d'habiter dans une cellule de prison.
De base, je suis déjà un peu claustrophobe, mais là, vraiment, je le ressens. Enfermé entre quatre murs, tout ça.
Les cours depuis sa chambre de bonne l'ont fait suffoquer.
J'ai fait des crises d'angoisse, des crises de nerfs, tout ça, à répétition. Je ne peux pas. Je n'y arrive pas. C'est pas possible. C'est pas vivable.
Cet étudiant en STAPS a fini par inventer une parade.
Rez-de-chaussée.
Chaque matin, Lucas fait semblant. 1h15 de transport direction la fac pour y suivre ses cours de la journée sur son ordinateur.
Je fais comme s'il n'y avait pas de Covid, pas rien du tout, pas de confinement, pas de couvre-feu. Je vais à la fac le matin, je rentre de la fac le soir, je vais dans un bâtiment et je me trouve en code bureau. Quand on vient en présentiel, inconsciemment, on se met en condition de travail. Alors que quand on reste chez nous, on n'a pas cette phase. On sort de la douche, on est déjà au bureau.
L'étudiant risque une amende pour non-respect du couvre-feu, mais c'est le seul moyen, dit-il, d'assurer son avenir et de préserver sa santé mentale.
Emmanuel Macron pourrait profiter de sa visite à Saclay pour annoncer de nouvelles mesures d'accompagnement, par exemple un chèque de soutien psychologique pour permettre aux étudiants en difficulté de financer des consultations chez le psy.
Est-ce une nouvelle affaire de violence policière ? En tout cas, une jeune femme de 23 ans accuse les forces de l'ordre d'être responsable de sa fausse couche dans le Val d'Oise le mois dernier.
Oui, enceinte de 4 mois et demi, elle a déposé plainte contre une policière qui l'aurait violemment poussée. La fonctionnaire conteste formellement. L'IGPN, la police des polices, mène l'enquête. Récit de Gladys Lafitte.
En sortant d'un centre commercial, Déborah et sa cousine sont verbalisées pour non-port du masque. En s'éloignant, des insultes auraient été dites par la cousine. Elle est alors interpellée. Déborah tente de s'interposer et dit avoir été brutalisée par une policière.
Elle m'a attrapée par le bras. Elle m'a poussée contre le mur 3 fois violemment. Pendant qu'elle me poussait contre le mur, je lui disais « je suis enceinte ».
Elle aurait ensuite été secouée par cette même policière. 2 jours plus tard, Déborah est hospitalisée et finit par faire une fausse couche. Pour son avocat, maître Vincent Brengart, les événements sont liés.
Il y a un contraste saisissant
entre les constatations qui ont été faites par les gynécologues quelques jours avant et celles qui ont été faites quelques jours après. À la fois les éléments médicaux, les témoignages et cette chronologie nous amènent à considérer qu'il existe un lien de causalité entre l'intervention policière et la perte de l'enfant de Déborah.
Des vidéosurveillances et une caméra piéton portée par un policier sont en cours d'exploitation. D'après les premiers éléments de l'enquête, aucun coup n'aurait été porté. Les témoins n'ont pas encore répondu à l'IGPN. De son côté, la fonctionnaire mise en cause conteste ces accusations et attend sereinement d'être entendue par la police des polices.
7h11 sur Europe 1.
Et le football, l'OM s'est incliné hier soir 1-0 face à Lens au stade Vélodrome et pointe à la 6e place du classement de Ligue 1.
Et puisqu'on parle de foot justement, un nouvel acteur pourrait bien se positionner sur les droits télé, l'américain Amazon.
Et oui, alors que la Ligue a donné jusqu'au 1er février pour remettre les offres, il n'y a pas que des chaînes de télé qui sont intéressées. Simon Rubin, bonjour.
Bonjour.
Amazon dans le foot français, c'est crédible ?
Alors ce qui est sûr, c'est qu'Amazon est très intéressé par le foot français. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis plusieurs années, le géant américain discute avec la Ligue de foot pour investir, cherchant le bon moment, la bonne opportunité. Du côté de la Ligue, on a évidemment tout intérêt à pousser cette idée qu'Amazon pourrait s'engager dans la bataille des droits. Cela briserait la potentielle entente entre Canal+ et beIN Sport et cela ferait repartir les enchères à la hausse. Mais Amazon ne va évidemment pas s'engager à n'importe quel prix. Jusqu'à présent, le groupe américain n'a jamais investi plus de 120 millions d'euros dans les droits pour du foot en Europe. Et puis Amazon n'aime pas les engagements trop longs et préfère les événements ponctuels comme les matchs du championnat anglais pendant les vacances de Noël ou comme Roland-Garros. Si on prend en compte d'ailleurs ces deux critères, il y a un lot qui pourrait convenir et qui contient le trophée des champions, c'est un match dans l'année, et puis qui contient aussi les trois multiplex qui sont des moments clés de la saison avec les 10 matchs en même temps, c'est très identifié d'un point de vue marketing. Certains présidents de clubs y croient, la Ligue 1 n'est pas chère, c'est le moment pour eux d'y aller, les planètes sont alignées, me confiait d'ailleurs l'un d'eux.
Simon Rubin.
Est-ce qu'on va devoir ou pouvoir, si on souhaite, regarder nos journées de Ligue 1 sur Amazon ? Le monde change, mais parfois un peu trop vite. Faut suivre, Hélène. Merci beaucoup. C'était le journal de 7h sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et c'est une rencontre que je vous propose à 7h40. Axel Daucher, mon invité qui a un parcours brillant mais classique, polytechnicien. Il a dirigé Deezer, Publicis France et il a tout quitté pour lancer Make.org, une plateforme de démocratie participative. Écologie, violence faite aux femmes, protection de l'enfance. Sur Europe 1 ce matin, il appelle les patrons, les entrepreneurs, l'entreprise à prendre part au changement de la société. Rencontre, témoignage sur Europe 1. Vous écoutez le monde changer, comment être acteur de ce changement. Axel Daucher, fondateur de Make.org à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h14 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Emmanuel Macron lui-même annonce ce matin à Saclay, en région parisienne, un grand plan pour soutenir l'informatique quantique. L'Élysée y voit un enjeu stratégique.
À juste titre, la France passe clairement à la vitesse supérieure dans un domaine certes un peu ésotérique pour le grand public, mais crucial pour notre souveraineté. Alors de quoi s'agit-il ? En deux mots, vraiment en deux mots, à force de progrès, nous arrivons au bout en quelque sorte de l'informatique traditionnelle. Depuis 50 ans, c'est la loi de Moore, la puissance des microprocesseurs double tous les 18 mois. Nos ordinateurs sont de plus en plus puissants. Mais il y a un moment, et nous y sommes, où l'on bute sur les limites physiques, matérielles de la miniaturisation. Si on veut continuer à augmenter la puissance de calcul des machines, on sait qu'on n'y arrivera plus en essayant de graver des éléments de plus en plus petits.
Alors il faut donc passer à une toute autre technologie.
Oui, dans le langage courant, on dirait qu'il faut un saut quantique. Eh bien, ça veut dire exactement ça. Ça veut dire concrètement qu'il faut passer à des machines dont le cœur n'est plus constitué de microprocesseurs de plus en plus petits, mais de particules, des atomes froids, des ions, des photons, etc. C'est bien une révolution qui a commencé. Nous avons en France d'excellents physiciens, de grandes entreprises pionnières, au premier rang desquelles Atos, que Thierry Breton et maintenant son successeur Élie Girard ont résolument engagé sur cette voie. Thales est également un acteur majeur. Et puis nous avons de nombreuses start-up engagées dans cette révolution. Bref, il y a tout un écosystème français de l'informatique quantique, mais qui mérite d'être soutenu. D'où ce plan annoncé par le président tout à l'heure, 1,8 milliard d'euros sur 5 ans. Car dans le même temps, les États-Unis, IBM, Google, d'autres, et la Chine mobilisent des moyens encore plus considérables.
Pourquoi un tel investissement dans l'informatique quantique?
Alors, pour visualiser le potentiel, imaginez qu'une machine quantique pourra faire en quelques heures ce que les meilleurs ordinateurs actuels auraient mis non pas des mois, mais des millions d'années à faire. Vous voyez bien le saut quantique. Total veut utiliser cette technologie pour simuler la captation de CO2. Ça peut servir à mettre aussi au point des médicaments infiniment plus vite qu'aujourd'hui, à modéliser la production nucléaire, à développer des intelligences artificielles, évidemment à crypter des données, les applications dans la défense sont très nombreuses, etc. En clair, les pays qui maîtriseront l'informatique quantique posséderont une avance absolument décisive sur les autres. Quand je vous dis qu'il y a là un enjeu majeur de souveraineté, ça n'est pas un vain mot.
Un saut quantique, on comprend aussi un peu mieux l'expression quelque part, Nicolas Barré,
j'espère,
qui a envie de remplacer Stéphane Bern, on dirait. Nicolas Barré, l'éclairage éco, tous les matins, c'est fascinant, c'est très mystérieux ces histoires de physique quantique, mais c'est fascinant. Nicolas Barré, 7h17, Vincent Hervouet est avec nous. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour Nicolas.
Le regard international de Vincent Hervouet, là aussi ce sera un peu mystérieux, il y a un peu de mystique en tout cas. Ce matin Vincent, vous revenez sur la cérémonie d'investiture de Joe Biden.
Oui, c'était plutôt un sacre, hein. Le sacré débordait, Joe Biden en a fait des tonnes. La messe à la cathédrale pour commencer la journée, la minute de prière en silence à midi, la Bible familiale sur laquelle prêter serment, un discours comme une homélie qu'on peine à suivre, on attend que la chorale revienne. Du coup Lady Gaga chantant l'hymne national semblait une vestale du culte à l'être suprême. La première dame était en violet, comme un évêque. Hillary Clinton aussi, ni rouge ni bleu, les deux à la fois. Cette couleur liturgique serait celle de la réconciliation. C'est surtout l'étendard du parti unique, le parti des professionnels de Washington, qui ont tendance à jouer au petit sein.
Joe Biden a dit « Écoutons-nous ». Il a aussi dit « Nous sommes un peuple bon ».
Alors, la religiosité, le messianisme parlent à l'Amérique profonde, mais les Américains n'étaient pas là. Cette grande messe se tenait dans une église vide. Les seuls paroissiens, c'était le clergé, les professionnels, les politiciens, la garde nationale, les gardes du corps. Il y avait dans la rue plus de militaires qu'à Bagdad dans la zone verte. Et pour combattre la peur de l'attentat, la peur que viennent les furieux de l'autre semaine. On n'a pas vu l'ombre d'un manifestant. Cette veillée d'armes absurde contrastait avec l'entre-soi sur la terrasse et on a vu à la fin de l'office les paroissiens s'attarder comme sur le parvis de l'église avant de grimper dans la limousine. Comme si la page Trump était tournée, la réconciliation en marche. Cette cérémonie, c'était un sacre et surtout, c'était un exorcisme.
Le pape François a envoyé un message pour encourager Joe Biden à favoriser la réconciliation et la paix.
Oui, le pape veut prendre Biden au mot. Ils sont de la même génération, même religion. Joe Biden est le deuxième président catholique après John Kennedy. La différence, c'est qu'il n'a pas rassemblé le vote catholique. La moitié a préféré Donald Trump, les latinos notamment. Les catholiques et l'épiscopat lui-même sont profondément divisés. Joe Biden lui-même est divisé. Il met sans cesse sa foi en avant, mais dans la pratique, il est pour l'avortement, pour le mariage gay, très progressiste sur les questions de bioéthique. Bref, en opposition à l'enseignement de l'Église universelle, il faudrait un miracle pour que ce drôle de paroissiens réconcilie les Américains.
Merci Vincent Hervouet, le regard international. Il est 7h19. Tout de suite, les Marseillais ont de nouveau perdu hier soir. Une seule victoire et 4 défaites lors des 7 dernières journées de Ligue 1. Parfum de crise à Marseille. L'édito sport, Virginie Fulpin, dans un instant.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h22, c'est l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
L'OM a encore été battu hier soir au stade Vélodrome. 1-0 pour Lens, un non-match absolu de la part des Marseillais. Pour vous Virginie, dans ce club, il y a maintenant le feu à tous les étages.
Alors il y a une grande différence entre les supporters marseillais et les joueurs. Hein, on l'a vu hier soir. Quand les joueurs sont sur le terrain, ils donnent l'illusion parfaite de ne pas être là. Et quand les fans ne peuvent pas être au stade, eux, ils trouvent le moyen d'être présents quand même avec leurs inscriptions aussi gigantesques que prémonitoires du genre « Vous êtes dégueulasse », je cite bien sûr. Hein. Mais il faut avouer que c'est le meilleur résumé de match que j'ai jamais vu. En fait, les supporters sont les seuls à jouer leur rôle en ce moment à l'OM, ce qui est cocasse en période de huis clos. Hein. Les joueurs, l'équipe, eux, sont portés disparus. On l'avait déjà remarqué le week-end dernier lors de leur défaite contre Nîmes. Le ton était monté, ils avaient promis une révolte. Ouais, tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est rentrer dans l'histoire des statistiques. 4 tirs en tout dans le match, dont un cadré. Ils n'avaient jamais fait pire à domicile depuis que les stats existent dans le football. Hein.
Ah oui.
Ouais, il reste un peu en travers de la gorge en ce moment, le fameux slogan « À jamais les premiers ». Le seul moment de lucidité des Marseillais a eu lieu après le coup de sifflet final, quand le capitaine Steve Mandanda a dit qu'il fallait changer beaucoup de choses au club. C'est difficile de lui donner tort.
Oui, hein. Mais ça veut dire quoi exactement cette phrase? Il veut changer d'entraîneur?
Alors je ne sais pas si les joueurs ont tous lâché André Villas-Boas, mais certains, comme Dimitri Payet par exemple, donne quand même la parfaite illusion. Sinon, comment est-ce possible de bouger aussi peu sur un terrain de foot? Et le coach, lui, qu'est-ce qu'il en dit?
Le moment que la direction pense que c'est moi, je ne vais pas mettre un obstacle. Je suis disponible totalement pour la direction. J'ai mis ma place à leur disposition la semaine dernière. Ça, ce n'est pas un problème.
Ah, il y a une belle émulation collective en ce moment à l'OM. Chacun cherche à tirer l'autre vers le bas. Ça fonctionne parfaitement. Le club atteint le ras des pâquerettes. Alors, est-ce que la direction va se séparer d'André Villas-Boas? Elle assure que non. Il faut dire que c'est difficile d'attendre quoi que ce soit du président. Hein. On voit plus le nom de Jacques-Henri Hérault sur les banderoles des supporters qui réclament sa démission que son ombre sur les trottoirs de la ville. Moins il passe de temps à Marseille, plus il est heureux, on dirait. Logique pour un président qui trouve qu'il y a trop de supporters marseillais qui travaillent à l'OM. Samedi, il a mis un bon coup de pression aux joueurs. Hein. Il s'est fâché tout rouge. Visiblement, ça leur a fait très peur. Le président de l'OM est donc à peu près aussi respecté dans le vestiaire que la distanciation physique dans le métro aux heures de pointe. Hein. Et ça commence aussi à devenir un vrai problème.
L'édito sport de Virginie Fulpin, tous les matins sur Europe 1. Merci Virginie. 7h24, nous retrouvons Stéphane Bern pour parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Quand on vous pose une question, vous avez à choisir entre deux options mais que vous n'avez pas envie de trancher, vous dites souvent les deux mon général.
C'est vrai que c'est assez automatique, on dit aussi les deux mon capitaine. J'imagine que ça vient de l'armée, j'ai pas fait mon service.
Oui, les deux mon capitaine.
Là j'avais juste proposé l'armée.
Ah pardon, autant pour moi. Cette expression vient effectivement, Mathieu, de la grande muette, d'une blague plus précisément. Une fois n'est pas coutume, je vous la raconte. Des soldats vont se faire inspecter par un général et la veille on leur donne les réponses. Quand le général dira quel âge avez-vous, il faudra répondre 20 ans. Quand il vous dira depuis combien de temps êtes-vous là, il faudra répondre 6 mois. Et quand il vous demandera si vous préférez les choux ou les patates, il faudra dire les deux, mon général. Le lendemain, c'est l'inspection. Le général arrive et dit au soldat « Quel âge avez-vous ? 6 mois, mon général. Depuis quand êtes-vous ici ? 20 ans, mon général. Vous me prenez pour un abruti ou pour un imbécile ? Les deux, mon général. » Au-delà de la blague, l'expression exprime qu'à l'armée, devant un haut gradé, on n'exprime pas ses goûts personnels. On prend les deux. Autre hypothèse à l'expression, une légende veut qu'au IXe siècle, un personnage ait accédé à la fonction papale après avoir caché le fait d'être une femme. À sa mort, un ecclésiaste avait été chargé de vérifier son anatomie. On lui demande alors... C'est un pape ou une femme ? Il répondit « Les deux, mon cardinal. » Alors, totalement inventé ou inspiré de faits réels, bon, certainement les deux, mon général.
Et on vous retrouve tous les deux, Stéphane Bern, Mathieu Noël, à 16h sur Europe 1.
Oui, on réunit Philippe d'Orléans, le régent, le président John Fitzgerald Kennedy et le golfeur Tiger Woods. Leur point commun ?
Je cherche.
Un excès de sexe. Et oui, ils sont complètement obsédés par le sexe.
Il peut y en avoir trop alors. À tout à l'heure, 16h, mon cher Stéphane.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et vous restez avec nous dans un instant, la météo avec Laurent Cabrol, le journal de 7h30, Sophie Echen. Et à 7h40, notre nouveau rendez-vous, La Touche Âme, Bertrand Chameroy. À tout de suite. Europe 1. 7h28, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Alors, quel est le plus embêtant dans les jours qui viennent, quel est le plus embêtant, je vous le dis, la pluie ou le vent ?
Les deux, mon capitaine. Ça marche ?
Bah oui, les deux, parce que la pluie d'abord, parce qu'il y a quatre perturbations s'annoncent, hein. La première c'est celle que nous allons vivre aujourd'hui, et une autre ce soir, il y en a trois autres derrière, donc on peut dire même cinq perturbations, donc on craint pour les inondations, et le vent, parce qu'il va atteindre des valeurs de 100, 110, 120 km/h sur les côtes atlantiques. Bon, ce n'est pas énorme, c'est pas ce que l'on craint. On craint que dans cet amas de vent qui commence déjà à se manifester et à souffler, on craint une petite tempête. C'est la crainte, elle est là. Et s'il y a une tempête, c'est pour samedi ou dimanche. Bon, on n'en est pas encore à ce niveau, on se calme et on dit qu'aujourd'hui sera une journée...
Calme.
On dit que c'est moi qui suis calme. On dit qu'aujourd'hui, eh bien, nous avons des valeurs de 80 km/h en général, même dans les terres. Nous avons 70 à Orly, par exemple, 80 à Lille, 80 à Nancy, enfin, pour citer que quelques vitesses de vent. Et puis, nous allons avoir de la pluie. Alors, la pluie, elle est passée en deux fois. La première fois, c'était cette nuit. Elle a touché déjà une petite partie de la France. Elle continue sa progression vers les régions de l'Est. Et la seconde est beaucoup plus costaude et solide. Elle est actuellement sur l'Atlantique et elle va pénétrer à l'intérieur des terres. Elle est... épargnera un tout petit peu le sud-ouest et le Languedoc-Roussillon, mais partout ailleurs, ce sera de la pluie à un moment ou l'autre de la journée avec des températures douces entre 11 et 15 degrés. Il en fera 12 à Paris, mon capitaine, 14 à Bordeaux, mon général, et 15 à Marseille, mon maréchal.
Cabrol,
ouais.
Rompez. Merci beaucoup, 7h29.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal, il est 7h30.
J'ai l'impression d'avoir perdu en fait quasiment 2 ans de ma vie. On a toujours parlé, la vie étudiante, c'est les amis, c'est les amours, c'est les soirées. Et en fait, nous, c'est les larmes, le Xanax et les Zooms.
Et la grande détresse des étudiants qui ne voient pas le bout de la crise. Emmanuel Macron est attendu à l'université Paris-Saclay aujourd'hui pour échanger avec eux et leur apporter des réponses concrètes. Eux ont déjà eu leur réponse. Nouvelle douche froide pour les professionnels de la montagne. Les stations de ski risquent de ne pas rouvrir avant la fin de la saison. Et puis l'Amérique a un nouveau président. Qu'est-ce que cela va changer pour l'Union européenne? Nous irons à Bruxelles rejoindre notre correspondante.
Juste après ce journal, votre tout nouveau rendez-vous, la touche âme, Bertrand Chameroy qui revient sur l'investiture de Joe Biden aux États-Unis. Vous écoutez Le Monde changé et les acteurs de ce changement. Réparer la démocratie, mobiliser la société civile, chacun d'entre nous, sur des enjeux politiques. Le tête-à-tête Europe Matin avec Axel Daucher, fondateur de Make.org. L'édito politique Nicolas Bétou, juste avant Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité de la matinale. Aujourd'hui, l'essayiste libéral Mathieu Laine qui publie Infantilisation aux presses de la Cité. Très bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Mais tout d'abord, on va écouter ce témoignage, celui d'un fraudeur malgré lui. Sébastien, 35 ans, est déjà vacciné contre le Covid. Il est en forme, ne souffre pas de pathologie et n'est pas un professionnel de santé. Et pourtant, il a bien reçu une dose. Tout ça pour éviter de gaspiller. Écoutez.
J'étais dimanche matin à la maison avec mes enfants et je reçois un coup de fil d'une amie et cette amie m'explique qu'elle a reçu en urgence elle-même un coup de téléphone d'une amie qui travaille dans une clinique parisienne et dans cette clinique ils avaient des vaccins qui étaient sur le point de périmer qu'ils allaient devoir jeter dans l'heure. Donc on me dit que j'ai 3 quarts d'heure pour arriver, donc je réveille très très vite ma conjointe. Le médecin qui nous a reçus était dépité, il trouvait ça tout à fait anormal d'être contraint de vacciner des gens comme nous, mais il m'a bien expliqué que l'ARS avait été contacté, que l'ARS n'avait pas répondu, qu'ils avaient essayé de trouver des gens âgés, des gens malades, mais pas suffisamment, pas assez vite. Alors, je me sens pas coupable. Par contre, je me sens presque mal à l'aise d'avoir reçu ce vaccin. C'est complètement anormal.
Voilà, complètement anormal, dit Sébastien au micro d'Arthur M. Bachet. Complètement loufoque comme situation aussi. Nouvelle illustration des couacs dans l'organisation de la campagne de vaccination.
À la une de l'actualité, Emmanuel Macron se rend au chevet des étudiants sur le campus de Saclay en région parisienne.
Isolement, précarité, baisse de morale, les étudiants subissent la crise sanitaire de plein fouet, ils se disent abandonnés et ont manifesté en ce sens partout en France hier. Écoutez Charlotte, étudiante à Lille, au bord du gouffre, elle s'accroche tant bien que mal, mais elle ne pourrait pas supporter un troisième confinement.
La première fois qu'on a été confinés, j'avais 17 ans. Je vais avoir 19 ans dans 2 mois. J'ai l'impression d'avoir perdu en fait quasiment 2 ans de ma vie. De perdre mes plus belles années aussi, parce qu'on en a toujours parlé. La vie étudiante, c'est les amis, c'est les amours, c'est les soirées. Et en fait, nous, c'est les larmes, le Xanax et les Zooms. Il y en a qui en viennent à lancer des messages dans le groupe de classe en disant « ce soir, je me suicide » ou alors « faut que quelqu'un me parle parce que là, ça va pas du tout ». On en vient à se confier à des gens qu'on n'a jamais vus en vrai parce qu'en fait, on peut pas faire autrement. J'ai pas de vie sociale parce que on peut juste pas en avoir. Je peux plus travailler parce que je travaille dans l'animation pendant les vacances. Or, ça fait très longtemps que les colos, on les a arrêtés totalement. Je sais pas ce que je vais faire de ma vie parce que je suis en licence culturelle et la culture, elle existe plus. En fait, on sait pas où on va, à part dans le mur. On sait pas où on va. Moi, je trouve ça quand même incroyable qu'aujourd'hui, on ait des étudiants qui soient dehors pour réclamer le droit d'étudier. Donc, je me sens pas du tout prête à un troisième confinement et on est beaucoup à pas être prêt pour un troisième confinement.
Un témoignage recueilli par Lionel Gougelot.
Et à la détresse des étudiants s'ajoute celle des professionnels de la montagne. Dans les stations de ski, les remontées mécaniques ne rouvriront pas le mois prochain.
On va tout droit vers une saison blanche, comme l'a reconnu hier le secrétaire d'État au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne. De quoi provoquer la colère et la crainte des acteurs du secteur. Ils seront prochainement reçus par le Premier ministre pour discuter des mesures de soutien. Inquiétude aussi chez les restaurateurs. Pas d'annonce précise pour l'instant, mais ils craignent de ne pas pouvoir rouvrir avant début avril.
7h33 sur Europe 1. En ce moment même, la première nuit à la Maison Blanche pour Joe Biden, qui est officiellement devenu hier le 46e président des États-Unis.
Après une cérémonie d'investiture inédite, à huis clos mais ponctuée de discours forts, après avoir prêté serment, le nouveau président a une nouvelle fois appelé à l'unité.
Unis, nous pouvons faire de grandes choses, des choses importantes, et refaire de l'Amérique la première force du bien dans le monde.
Et Joe Biden, qui a tenu sa promesse hier en se mettant tout de suite au travail après son investiture, pas moins de 17 décrets signés. Le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat, par exemple, ou encore la suspension de la construction du mur à la frontière avec le Mexique.
Mais de notre côté de l'Atlantique, l'avènement de l'ère Biden, est-ce une bonne nouvelle pour l'Union européenne?
En tout cas, l'Europe veut proposer un nouveau pacte fondateur au nouveau président, qui est perçu comme un ami, selon les mots de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour.
Alors ces nouvelles relations s'annoncent plutôt bien, mais pourtant tout ne sera pas forcément tout rose entre Washington et Bruxelles.
Non, et on en a déjà eu un avant-goût au début du mois quand les Européens ont conclu un accord avec la Chine sur les investissements. Joe Biden les a appelés à se coordonner avec les États-Unis, sous-entendu, comment pouvez-vous faire cela sans nous consulter ? Il ne faut pas oublier non plus les conflits commerciaux en cours. Biden n'a pas dit qu'il allait supprimer les taxes américaines sur les produits européens. Au Parlement européen, le LR Arnaud Danjean appelle à ne pas être naïf.
Nos intérêts convergent souvent, mais ils ne sont pas toujours identiques. Il faudra des actes pour surmonter des contentieux bien réels, tels que par exemple les fameuses surtaxes commerciales injustes qui frappent certains de nos secteurs. Et c'est le bourguignon qui vous dit que les taxes sur le vin sont particulièrement incompréhensibles pour des gens qui aiment les États-Unis.
À voir aussi comment le nouveau locataire de la Maison-Blanche considérera les efforts européens pour taxer les géants du numérique. Comme ses prédécesseurs, il exigera sûrement plus d'investissements dans la défense aussi. Enfin, c'est important, les 4 ans de Trump ont uni les Européens. L'enjeu désormais, explique une source haut placée, ça va être de garder cette unité face à un président plus europhile et plus courtois.
Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1. Et puis les 27 dirigeants de l'Union Européenne se réunissent par visioconférence ce soir pour évoquer la pandémie. Au menu des discussions, le vaccin, les contrôles aux frontières et le passeport sanitaire. Et puis un mot de football pour terminer. Avec la nouvelle déroute de l'Olympique de Marseille, Marseille qui recevait Lens, le nouveau promu hier soir, victoire des Lensois de 2-1.
Merci Sophie Echen, c'était le journal de 7h30 sur Europe 1, il est 7h36.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Prenons-nous en main. C'est un petit peu le message ce matin finalement. Les invités d'Europe Matin à 8h15, l'essayiste libéral Mathieu Laine. Il s'interroge. À force d'être pris en charge, déresponsabilisé, le risque est de désapprendre la liberté. Il publie aujourd'hui Infantilisation, cet état nounou qui vous veut du bien. L'interview de Sonia Mabrouk à 8h15. Et le tête-à-tête Europe Matin dans quelques instants, c'est presque lié. Prenons-nous en main, engageons-nous, dit mon invité, fondateur de la plateforme Make.org. Il appelle les entreprises, notamment les entrepreneurs, à s'engager sur des questions de société. À faire de la politique, en fait. Son entreprise remet la société civile au cœur de la décision publique. Témoignage d'Axel Daucher à suivre. Mais avant cela, c'est votre nouveau rendez-vous, La Touche Âme, Bertrand Chamerois et son regard sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Poussez les meubles, ce matin je vous parle des adieux musicaux de Donald Trump.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h39 sur Europe 1. La Touche Âme, Bertrand Chamerois et son regard sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors hier, vous avez suivi, comme beaucoup, les adieux de Donald Trump à la Maison-Blanche.
Oui, alors je vais laisser l'analyse politique aux professionnels. Moi, je m'attarde vraiment sur l'aspect musical de ces adieux. À l'image de ces 4 années passées au pouvoir, déroutant. La fin du discours de Donald Trump a surpris tout le monde, y compris BFM.
Alors, précision importante, la musique, elle est là-bas. Hein. C'est la musique de la base d'Andrews que vous entendez, les Village People, YMCA, pour saluer la fin de discours de Donald Trump.
Ouais, la musique, elle est là-bas, hein. c'est pas nous. Donald Trump, 4 ans à la tête de la première puissance mondiale et il referme son mandat comme s'il était au mariage de Jean-Pierre et Monique à 3 grammes de punch. Est-ce que le général de Gaulle aurait démissionné sur YMCA des Village People, hein ? Non. Alors vous vous demandez sûrement qui est le responsable de ce choix étrange ? Eh bien, il est avec nous ce matin. Jesus. Moi, je veux voir tous les bons verts, même toi, Mathieu Béliard, le propriétaire de la Ford Fiesta garée en double fil et brillant de la déplacer. Ah, qui n'avait pas vu venir, celle-là, hein, passer de l'édito de Vincent Herouet à Émilie Images, faut se mouiller la nuque avant. Hein. Salut ma poule, Didier Snake, enchanté. Disque jockey, résident à la Siesta d'Antibes et conseiller musical de Donald Trump. Le seul conseiller qu'il aura écouté pendant toute sa présidence d'ailleurs. Tu veux un ginto ?
Non, ça ira, c'est un peu tôt encore. C'est donc vous qui avez conseillé à Donald Trump d'achever son mandat en musique.
Exact, c'était la classe, hein, spectaculaire. Ah bah mon Donald, il a le sens de la night. Hein. Il a passé 4 ans à bouger dans tous les sens en gueulant n'importe quoi. Il a filé la gueule de bois au monde entier. Quand on lui a dit que c'était fini, il voulait plus rentrer chez lui. Finalement, son mandat, c'était comme une soirée en boîte, quoi. Donc, c'était normal de terminer en musique.
Oui, mais vous avouerez que c'est curieux d'avoir choisi YMCA.
Ouais, je sais. À la base, on voulait un truc plus solennel, mais le seul CD qu'on avait dans la boîte à gants d'Air Force One, c'est le Maxi Best of RFM Party Tour. Cadeau d'Albert Spano, c'est un ami, je l'embrasse. On a longtemps hésité avec DISCO d'Ottawa, mais finalement, on a choisi les Village People. C'est quand même autre chose que les vedettes qui ont chanté pour l'opening de Robinette. Hein.
Pardonnez-moi. Et pour son dernier vol à bord d'Air Force One, Donald Trump s'est envolé sur My Way de Frank Sinatra.
Oh là là, m'en parlez pas. Là. Il a chié dans la décolle. Il a choisi tout seul. Moi, j'y suis pour rien. Je sais pas ce qui s'est passé. Là. Il s'est pris pour Obama. Mon Donald, c'est quand même le type qui fait des régés color blond poussin, qui s'est fait installer un bouton pour avoir du coca dans son bureau. Et l'autre, il décolle sur My Way. Bah, ceci dit, c'est la chanson la plus jouée aux enterrements. Donc, il y a une certaine logique. Même si moi, j'aurais préféré qu'il décolle là-dessus. Ça aurait eu plus de gueule. Continue avec Mathieu Béliard, il est 7h42 et on souhaite un bon anniversaire à Placido Domingo.
Merci Bertrand Chameroy. Ça va être n'importe quoi, on n'est que jeudi, c'est la quatrième, la touche âme tous les matins à 7h40 sur Europe 1. Merci Bertrand et à demain.
Europe Matin, le 7-9.
7h42 sur Europe 1. Pour qu'Internet ne serve pas qu'à râler sur les réseaux sociaux, mais aussi à rassembler des citoyens qui débattent, qui proposent, c'est le pari de mon invité. Polytechnicien, ancien patron de Deezer ou de Publicis France, Axel Dauchet a fondé Make.org. Fort de 6 millions de participants, il accompagne la décision publique locale et nationale. Sur Europe 1 ce matin, Axel Dauchet appelle les entrepreneurs à s'engager sur des questions de société.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Axel Dauchet.
Bonjour.
Alors on reprend notre sérieux, mais avant de commencer, je vous ai observé évidemment à l'écoute de Bertrand Chameroy avec le sourire. C'est le point de départ de notre échange ce matin finalement. Il y a un bug dans la démocratie.
Ouais, bah en fait c'est pour ça qu'on a monté Make.org. Je pense qu'elle est, vraiment fragile. En fait, elle est fragile à deux titres. Le premier, c'est que de plus en plus on la soupçonne, et parfois à juste titre, de ne pas être capable d'agir sur le réel. Vraiment une sorte d'impuissance publique qu'on ressent. Et puis l'autre, qui est bien plus grave, c'est celle qu'elle, finalement, elle ne réconcilie plus les populations, mais au contraire, elle les divise, comme on le voit aux États-Unis en ce moment.
Alors que je sois bien précis, Make.org, vous êtes une entreprise, hein, vous gagnez de l'argent, c'est pas un forum. Votre promesse, c'est d'alimenter le politique, le décideur local ou national, si je vous suis, c'est de l'aider à décider, à agir.
Alors en fait, notre réponse au problème de la démocratie, c'est de réussir à recréer un lien entre l'action individuelle et puis l'impact collectif. Parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on peut recréer le socle sur lequel la démocratie peut fonctionner. Et on le fait en accompagnant des États, les institutions européennes ou des villes ou des régions dans la mise en place de démocraties participatives qui sont une manière de réimpliquer les gens.
De manière très concrète, ils vous payent pour que vous impliquiez des gens sur des décisions, des débats de société et des propositions.
Exactement, sur des consultations, des grands débats, des états généraux. On a développé des méthodes qui permettent de co-construire à des millions de personnes avec des parties prenantes, des projets concrets pour les mettre en œuvre.
De façon convention citoyenne, par exemple, c'est un peu l'idée de...
C'est exactement okay. Ça, à plus large échelle.
On va parler de ce que doit, selon vous, être le rôle de l'entreprise dans la transformation de la société. Mais d'un mot, c'est aussi pour clarifier votre action. Vous agrégez des lobbies, en fait. Si je vous pose la question comme ça, vous êtes un peu lobby du citoyen et donc un peu concurrent des politiques aussi, des syndicats, des partenaires, des différents partenaires de la démocratie.
Non, en fait, faut la démocratie, on a l'impression que c'est que l'élection. La démocratie, c'est pas que l'élection, c'est la manière de gérer les affaires. Et dans les affaires, oui, on représente, on est une sorte de manière pour les citoyens d'agir en meute, hein, de pouvoir avancer. En revanche, on s'assure à chaque fois d'être représentatif. Donc on n'est pas ce que beaucoup voient dans les mouvements citoyens, des groupes particuliers. On est vraiment le représentant des consensus de la totalité du pays, et c'est ça qui permet de travailler.
La recherche du consensus. Mais quand je vous posais la question, j'ai l'impression que vous voulez court-circuiter un petit peu, en tout cas les organisations les plus classiques. Ça ressemble un peu d'ailleurs à ce qu'a peut-être voulu faire Emmanuel Macron en 2017. Est-ce que c'est un discours anti-bureaucratie, anti-administration que le vôtre ?
Non, c'est intéressant votre question, parce qu'en fait, un des problèmes, c'est la désintermédiation. C'est-à-dire que les corps intermédiaires, ceux que vous citez, ils ne sont de moins en moins actifs et ils ne jouent plus leur rôle. Donc on n'est pas concurrent d'eux, mais on est une nouvelle manière de réintermédier le lien entre le pouvoir et les citoyens. Donc on est une nouvelle manière de le faire, je dirais.
Et vous appelez en tout cas l'entreprise à prendre sa part, à s'engager dans la vie de la société, plus en France, de façon très concrète. Ce matin, sur Europe 1, vous lancez un appel sur la lutte contre les violences faites aux enfants, un appel au patron.
Oui, en fait, au-delà d'accompagner les États, on a aussi un rôle qui est d'aider la société civile à agir en direct, pas via du lobbying politique, mais vraiment à agir sur la société avec des actions extrêmement concrètes. On le fait sur plein de thèmes, notamment les violences faites aux femmes, les jeunes, l'environnement, etc. Et on a lancé en septembre une grande cause, parce qu'on appelle ça comme ça, contre les violences faites aux enfants, pour protéger les enfants contre toutes sortes de violences. On est avant l'affaire Duhamel, on est à un moment où les violences faites aux enfants, c'est le tabou ultime. Maintenant, on connaît les chiffres, un enfant sur 10, on commence à mesurer ce qui se passe. Mais à ce moment-là, c'était très compliqué. Et qu'est-ce qu'on a vu quand on a lancé cette grande cause ? On a vu un engouement citoyen extrêmement fort. On a eu 500 000 votes en 2 mois, donc quelque chose de absolument gigantesque, comme une sorte de tsunami
citoyen.
Vous
dites vote, mais ce sont des participations, vraiment.
Oui, des vraies participations sur la grande cause. Et en face de ça, une extrême difficulté à mobiliser la société civile structurée, les entreprises notamment, parce que le sujet fait ultra peur.
Mais alors, je veux bien, celui-ci particulièrement, quand on dit le mot inceste, on l'a vu, hein, que ça fait peur. Mais d'une manière générale, peut-être que vous avez du mal à mobiliser parce que l'entreprise va se dire, mais pourquoi c'est à moi de faire ça? Pourquoi c'est à moi de participer là-dedans? C'est pas mon boulot.
Alors en fait, depuis 5 ans, il y a eu un basculement dans les entreprises où elles savent que pour garder leurs collaborateurs, hein, elles sont obligées d'être combatives et de s'impliquer dans des actions civiles.
Oui, on l'a vu beaucoup avec des étudiants qui aujourd'hui aspirent à travailler dans des sociétés éthiques.
Exactement. Et celles qui ne le font pas, elles se déconnectent complètement. Donc ça, pour moi, ce passage-là, il est fait. Mais en revanche, ils le font sur des causes comme l'environnement, où toutes les entreprises veulent aller, etc. Mais typiquement, les violences faites aux enfants, c'est une cause orpheline. Parce que les entreprises ont l'impression d'être trop dans l'intimité de leurs collaborateurs. Ils n'ont pas envie de faire d'ingérence. Alors, on a des entreprises courageuses, hein. Là, en l'occurrence, on a eu comme entreprise courageuse la Fondation Kering, on a eu la Banque Postale, donc qui vraiment ont décidé d'y aller.
Les entreprises, quand elles y vont, quand elles vous aident, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Elles investissent chez elles, elles vous donnent de l'argent à vous. Comment ça marche en vrai?
Alors, sur les grandes causes, elles investissent déjà tous leurs collaborateurs, parce que tous les collaborateurs vont participer à un plan d'impact de 3 ans, et puis elles financent ce programme d'impact de 3 ans qui permet d'agir à l'échelle nationale tous ensemble.
Et vous avez des effets concrets? Je prends les violences faites aux femmes, puisque vous l'évoquiez.
Oui, c'est très intéressant, parce qu'on est pile à 3 ans après le début, donc on a livré le 25 novembre dernier les 4 actions radicales, où on a notamment, à titre d'exemple, hein, on a convaincu des groupes hôteliers de mettre à disposition des femmes victimes de violences les chambres d'hôtel invendues. Il y a 80 000 chambres d'hôtel invendues par jour en France hors Covid. Ça multiplie par 3 l'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences. On a mis un programme complètement civil pour former 40 000 fonctionnaires de police à l'accueil des femmes victimes. Jusque-là, l'État en formait 1 000 par an. Donc, c'est des actions radicales et qui sont d'une dynamique propre à la société civile.
Un dernier mot, Axel Dechet, votre parcours, je l'ai mentionné en préambule, Polytechnique, à la tête d'entreprises comme Deezer, Publicis, et puis ce changement de carrière qu'on comprend mieux en vous écoutant ce matin. Ma dernière question est simple, c'est quoi être utile?
C'est une question que je me suis posée tardivement, parce qu'en fait, je me suis posée pendant très longtemps, je considérais que ma vie professionnelle était un grand jeu et qu'être utile, c'était mes enfants. Et puis à un moment, les enfants grandissent, et donc à peu près 50 ans, j'ai eu envie de mettre tout ce que j'avais au service d'une cause qui me dépassait. Donc il se trouve que c'était Mecmoorg en l'occurrence. Mais j'ai donc goûté à une drogue qui est celle de savoir à quoi sert ce qu'on fait. Ce qui a l'air d'une banalité totale, mais qui dans la journée, chaque jour, nourrit incroyablement. Et c'est ma vie depuis 5 ans.
Vous avez donné du sens en tout cas à ce que vous faites. Et puis cet appel, hein, je le souligne, cet appel au patron lancé sur Europe 1 ce matin. Les entreprises, engagez-vous dans la lutte contre les violences faites aux enfants. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. Axel Dechet, fondateur de Make.org, un peu d'inspiration ce matin. Merci beaucoup.
Merci.
Et je reprends aussi, puisqu'en préparant l'interview, je voyais que vous citiez Edgar Morin. On n'est plus aujourd'hui dans la société du être ensemble, mais du faire ensemble.
Exactement.
À méditer pour la journée. Axel Dechet, polytechnicien, ancien patron de Deezer et créateur de Make.org. Il est 7h50. Vous restez bien sur Europe 1, l'édito politique, Nicolas démocratie toujours. Avec le référendum sur le climat, Emmanuel Macron joue à la roulette russe. L'édito de Nicolas, dans un instant.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h52 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Ça y est, le décompte qui doit aboutir au référendum sur le climat a été enclenché.
Oui, le Conseil des ministres a adopté hier le projet de loi qui, s'il était voté dans les mêmes termes par l'Assemblée et le Sénat, serait ensuite soumis au vote des Français par référendum.
Vous en parlez au conditionnel?
Parce qu'il y a peu de chances que le Sénat adopte le texte du projet tel qu'il a été voulu par Emmanuel Macron. À première vue, c'est une affaire pourtant simple. Il n'a fallu que 55 petites secondes montre en main à Gabriel Attal pour en parler dans son compte-rendu du Conseil des ministres. Sauf que tout dépend d'un mot, d'un verbe très précisément.
Un verbe, c'est-à-dire ?
Avec ce projet de loi, il serait inscrit dans la Constitution que la République garantit la préservation de la biodiversité, de l'environnement et lutte contre le dérèglement climatique. Garantie. Garantie, c'est un mot très fort, presque coercitif. Tout ce qui ne garantit pas la biodiversité devient anticonstitutionnel. Alors à droite, mais aussi dans une partie de la majorité présidentielle, on préférerait plutôt dire favorise, la République favorise la biodiversité et la lutte contre le dérèglement climatique. C'est une intention solennelle, certes, mais pas une contrainte paralysante pour une bonne partie de l'activité humaine. Et du choix de ce mot, de ce verbe, dépendra le succès ou l'échec du référendum.
Alors si c'est le verbe garanti.
Eh bien, le danger, c'est qu'une partie des Français rejette cet absolutisme écolo un peu clivant, comme ils avaient rejeté la taxe carbone. J'ajoute qu'un référendum, c'est toujours un exercice très délicat pour un président de la République, mais un référendum 6 mois seulement avant une élection présidentielle, c'est un risque fou.
Et si c'est le mot « favorise » ?
Alors les chances d'un oui seraient plus importantes, mais voilà. Qui irait voter pour introduire dans la Constitution un grand principe ? Généreux, certes, mais sans portée réelle. Les Français auraient vite fait de considérer que l'opération référendum est une manœuvre politique d'Emmanuel Macron pour engranger à peu de frais une image écolo et un succès électoral le propulsant vers la présidentielle. Et il n'irait pas forcément voter, ce que vient d'ailleurs de souligner un sondage. Un électeur seulement sur 3 se déplacerait et le référendum ferait pchit. C'est le quitte ou double de ce genre de vote. Soit on clive et on risque l'échec, soit on endort et on risque de ne rien gagner.
Merci Nicolas Bétou, votre édito tous les matins d'Europe Matin, juste avant 8h. Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, 7h55. Comme tous les jours, Nicolas Canteloup conseille à sa manière l'invité de la matinale. Et à 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Mathieu Laine, avocat, directeur de la société de conseil Altermind et essayiste, auteur d'Infantilisation, cet état nounou qui vous veut du bien, c'est aux éditions Presse de la Cité. Et c'est Jean Castex qui souhaitait lui dire un mot.
Oui, bonjour Monsieur Béliard, Monsieur Caprol, bonjour Monsieur Bétou, oh j'adore. Écoutez, Monsieur Bétou, quand il fait pchit, ça me rappelle la boisson de notre temps. Bon, bref, vous vous en souvenez avec cette capsule-là. Voilà. Bonjour à papy et à mamie nous écoutent, que je ne l'ai pas salué. Et bonjour à Mathieu Laine, donc conseiller et qui critique l'état nounou qui infantilise les Français. Je me sens visé. Alors, cette thèse est intéressante, mais quel est son conseil alors pour ma conférence de demain, si nous devons plus adopter l'état nounou qui infantilise? Qu'est-ce que je dis aux Français, moi? Je leur dis quoi en conférence, hein? Démerdez-vous, alors chacun pour soi, allez vous faire cuire l'oignon. Eh oui, mais que voulez-vous, j'en suis là. Quel conseil me donnerait Monsieur Laine? Par contre, Monsieur Béliard, Monsieur Bétou, pourriez-vous vous cotiser pour me dépanner de 3 000 euros? Parce que je pense que les conseils de Monsieur Laine ne se n'en sont pas donnés. Voilà. Je ne vous cache pas qu'on a pas mal dépensé dernièrement. On est un peu à sec.
Oui, ça a été observé aussi. Ceci dit, Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière. Et l'invité de la matinale tous les jours à 7h55. On vous retrouve à 9h moins le quart pour la revue de presse. Mathieu Laine à 8h15 au micro de Sonia Mabrouk tout à l'heure. Très bon réveil à tous. Europe 1. 7h58 sur Europe 1, c'est Laurent Cabrol qui est avec nous pour la météo.
Eh bien, la pluie et le vent seront nos compagnons jusqu'à la fin de la semaine. Vous le savez, j'en parle depuis ce matin et le vent va souffler aujourd'hui autour de 110-120 sur les côtes, même sur le côté de l'île de Nord-Pas-de-Calais est en vigilance, attention, 110-120 et dans les terres entre 70 et 80. Donc vraiment, ça décoiffe, hein. C'est un sale vent, si je puis dire. Et puis alors la pluie, pour, selon les cas, elle est plus ou moins forte. Et pour l'instant, nous avons une petite perturbation qui traverse la France. Elle a déjà passé sur Paris, sur Bordeaux, et elle continue sa petite route. Et une autre perturbation arrivera dans le courant de la soirée. Et après, les autres vont se succéder pratiquement une par jour jusqu'à dimanche. Donc, les petites craintes d'inondation à la clé. Avec des températures qui restent douces pour la saison, entre 10 et 15 degrés, 11 degrés à La Rochelle, 12 degrés à Paris, 15 degrés à Marseille. C'est vraiment largement au-dessus des normales saisonnières. Je vous raconterai un jour comment on calcule les normales saisonnières. Parce que c'est assez curieux, ça. On calcule sur 30 ans, sur 30 stations françaises. On fait la moyenne, et c'est la saison. Mais après, il faut choisir la date. Avant, on était sur 1981-2010. Maintenant, on est sur 1991-2020. Donc, on n'a pas la même référence. C'est ça, la normale saisonnière.
C'est comme ça, au moins, on comprend. Oui, j'allais dire, vous allez vous rencontrer un jour, mais c'est fait, non?
Oui.
Merci, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour, François Geffrier.
Bonjour, Mathieu. Bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde change. Il est 8h.
Le fait de dégager son nez de l'écran, d'avoir quelqu'un en face de nous, ça fait un bien qu'on ne soupçonne même plus. C'est beaucoup plus interactif et ça nous fait avancer.
Des étudiants qui retrouvent une saveur oubliée, celle des cours, dans une salle, au milieu de leurs camarades en chair et en os. Une prof de fac a désobéi au protocole en vigueur pour réagir face au plongeon du moral de ses élèves. Cette solitude, un phénomène suffisamment préoccupant pour qu'Emmanuel Macron s'en saisisse aujourd'hui même. Déplacement tourné vers l'avenir, celui des jeunes et celui de la science. La France veut son ordinateur quantique, un joujou à presque 2 milliards d'euros sur 5 ans, indispensable d'un point de vue stratégique. Trois anciens présidents américains dans ce journal. À eux seuls, ils comptent pour un quart de siècle de l'histoire des États-Unis. Obama, Bush et Clinton affichent leur soutien à Joe Biden. Et puis un livre historique, mais nauséabond, annonciateur des pires atrocités, Mein Kampf, bientôt réédité en français, 1000 pages, dont la moitié seront consacrées à la critique du texte d'Hitler.
Juste après ce journal, la pandémie qui interroge nos valeurs, à force d'être prise en charge, pris par la main, sommes-nous déresponsabilisés? Le risque n'est-il pas de désapprendre la liberté? Mathieu Laine, entrepreneur, essayiste libéral, auteur d'Infantilisation, cet état nounou qui vous veut du bien aux presses de la Cité. Il répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il y a eu les alertes des psychologues et des psychiatres. Il y a eu ces messages en cascade sur les réseaux sociaux. Il y a eu l'appel des présidents d'université à se saisir d'urgence du mal-être de leurs étudiants. Mais jusqu'à présent, c'est la catégorie de la population qui subit peut-être le plus durement l'injustice de cette crise sanitaire.
Des étudiants pour qui les cours se passent sur un écran. Il n'y a quasiment plus de petits boulots et donc plus de revenus. Et cette solitude trop forte, une prof de fac de Lorient a voulu la contrer. Quitte à désobéir aux règles, elle s'est confiée à Diane Berger pour Europe 1.
J'avais cours avec des licences. Je leur ai dit, écoutez, moi, je ne sais pas comment vous êtes, mais je n'en peux plus de cette situation. Et ils m'ont dit, on veut revenir en présentiel.
C'était le déclic, la semaine dernière. Alors, en quelques jours, Florence Gourlet s'organise. Cette professeure de géographie réserve des salles d'université. Sans mentir, en précisant bien que c'est pour faire cours, sa direction ne réagit pas. Et elle invite les élèves qui le souhaitent à revenir en amphi.
Il y avait une cinquantaine d'étudiants inscrits à ce cours. J'en avais 35 en présentiel et 22 sur l'écran, en distanciel. On était dans une salle de 90 places. Tout le monde avait son masque. J'ai fait un cours complètement ordinaire, quoi, et ça s'est devenu quelque chose d'extraordinaire.
Des cours comme ça, elle en organise maintenant pour tous ses élèves, licence comme master. Et c'est un soulagement pour Léa, l'une de ses étudiantes. Quand elle suit un cours à distance, elle décroche en général en moins d'une heure.
Le fait de dégager son nez de l'écran, d'avoir quelqu'un en face de nous, ça fait un bien qu'on ne soupçonne même plus. C'est beaucoup plus interactif et ça nous fait avancer.
La direction de l'université n'approuve pas du tout cette démarche et signale que l'enseignante s'expose à une sanction disciplinaire. Mais Florence Gourlet compte bien continuer. Elle se dit même prête, s'il le faut, à organiser ses cours en dehors de la fac.
Un reportage de Diane Berger pour Europe 1.
Et si on en parle ce matin, c'est qu'Emmanuel Macron veut agir. Il va rendre visite à des étudiants sur le campus de Paris-Saclay aujourd'hui. Il va échanger avec eux à la maison des étudiants.
Et il a commencé à le faire d'ailleurs. Une étudiante de Sciences Po Strasbourg l'avait interpellée par une lettre. Une bouteille à la mer, écrivait Heidi Soupeau. À 19 ans, j'ai l'impression d'être morte. Le président de la République lui a répondu et ce matin, elle nous a confié sur Europe 1 ce qu'il lui avait dit.
La lettre est assez longue pour dire, si j'y résume, qu'en gros, il a compris les étudiants, il a compris les difficultés de la situation, mais qu'il faut tenir. Ce qui signifie qu'il n'y a pas grand-chose qui va changer pour nous, malheureusement. Du coup, bon, j'avais un peu beaucoup d'espoir et c'est vrai que lire la lettre, ça m'a vraiment miné le moral parce que est-ce qu'il nous a vraiment compris? C'est juste plus possible en fait, on peut plus tenir. Enfin, l'idée de repasser le second semestre comme j'ai passé le premier semestre, c'est juste impossible et ça fait vraiment peur honnêtement.
Heidi Soupeau qui était l'invité de Sébastien Krebs à 6h40 sur Europe 1.
Alors on suivra les réponses d'Emmanuel Macron aux étudiants, mais si le président se rend sur le campus de Paris-Saclay, c'est au départ pour une histoire d'atomes, d'ions, de photons et d'électrons.
Oui, on est ici dans l'infiniment petit. Il s'agit d'accélérer sur le développement de l'ordinateur quantique. Alors on a besoin de comprendre, Clément Le Saffre, vous allez nous expliquer cette technologie dont la France veut être un leader.
Oui, l'Elysée vise la place de numéro 3 mondial de la recherche quantique derrière les États-Unis et la Chine. Pour ça, l'État va mettre 200 millions d'euros par an sur la table lors des 5 prochaines années, contre 60 millions aujourd'hui. Objectif, accélérer la conception de l'ordinateur quantique, qui représente aujourd'hui la nouvelle frontière technologique. Pour faire simple, c'est un ordinateur qui utilise les règles de la physique quantique pour faire ses calculs. Il va donc beaucoup plus vite qu'un ordinateur classique et permet de réaliser des simulations à grande échelle, extrêmement précises. Les applications sont multiples, biologie moléculaire, fission nucléaire, analyse financière ou encore prévision météo. Sauf que les ordinateurs quantiques sont encore théoriques car leur fabrication est très complexe. Ils ne peuvent fonctionner que dans un environnement à température proche du zéro absolu, soit moins 273 degrés Celsius. Pour concrétiser ce projet, l'Elysée mise donc sur une alliance entre l'État, la recherche et les entreprises. Les industriels, notamment Atos, Thales et Air Liquide, vont investir 550 millions d'euros. L'Union européenne, elle, ajoute 200 millions. En total, total, c'est donc 1,8 milliard d'euros sur 5 ans qui est mobilisé pour que la France garde la main sur une technologie stratégique.
Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1.
Et Nicolas Barré nous disait à 7h15 dans son éclairage éco, les pays qui maîtriseront l'informatique quantique posséderont une avance décisive sur les autres.
Et on note par ailleurs ce matin cette petite phrase d'un ministre plutôt peu connu de son poste à Bercy où il gère les comptes publics. Olivier Dussopt le dit, si 2021 marquera la fin de la pandémie comme tout le monde l'espère, il faut aussi que 2021 marque la sortie du quoi qu'il en coûte. Déclaration dans les échos, Olivier Dussopt nous prépare ainsi à l'extinction des aides massives.
8h06 sur Europe 1 et voici l'ambiance du côté de Washington cette nuit.
On n'avait pas dansé du côté du Capitole, il faisait nuit, il faisait froid. Demi Lovato était en concert, mais aussi Bruce Springsteen, Bon Jovi, John Legend, au programme du show animé par Tom Hanks. Il y avait aussi les trompettes de l'armée et un feu d'artifice. Une vraie fête d'investiture pour Joe Biden.
Bonjour Sonia Dridi.
Bonjour.
On a vu aussi un symbole très fort d'unité politique.
Oui, c'est une image rare et symbolique. Trois anciens présidents, tous de noir vêtus, réunis dans une vidéo pour appeler à l'unité. Le républicain George W. Bush s'est voulu rassurant alors que le pays est extrêmement divisé.
Je pense que le fait que nous soyons tous les trois ici présents pour parler d'un transfert pacifique du pouvoir prouve l'intégrité des institutions de notre pays.
Le démocrate Bill Clinton, qui a travaillé avec Joe Biden lorsque ce dernier était sénateur, a souligné le caractère exceptionnel de cette époque.
C'est une époque extraordinaire. Nous sommes à la fois en train de tenter un retour à la normale, de faire face à des défis complètement anormaux et faire ce que nous faisons le mieux, rendre notre union plus parfaite. C'est vraiment excitant.
L'ancien président Barack Obama, grand complice de Joe Biden, son ancien vice-président, qu'il appelle affectueusement Joe, a demandé aux Américains de travailler ensemble malgré les différences.
Ne parlons pas seulement avec ceux qui ont les mêmes opinions que nous, mais aussi avec les autres.
Le grand absent, c'était évidemment Donald Trump, qui a boudé la cérémonie d'investiture et n'a jamais appelé Joe Biden pour le féliciter. Mais selon le président américain, son prédécesseur lui a laissé une lettre très aimable à la Maison Blanche.
Eh ben on aimerait bien la lire, cette lettre. Merci Sonia Dridi, en ligne de Washington pour Europe 1. Premiers actes de président pour Joe Biden et première réaction internationale. Le Mexique salue l'arrêt de la construction du mur à la frontière américaine. Le Canada se dit déçu du blocage d'un projet d'oléoduc. Emmanuel Macron se réjouit, lui, du retour de l'Amérique dans l'accord de Paris sur le climat. Welcome back, tweet le président français.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant, ne les appelez plus station de ski, mais plutôt station de luge, station de raquette. C'est plutôt la réalité de cette saison, évidemment. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Le gouvernement a tranché, pas de réouverture, de redémarrage des remontées mécaniques dans les stations de ski au 1er février. Mais cette saison aura tout de même profité à des stations spécialisées dans le ski nordique. C'est le cas du plateau de Baye en Ariège où s'est rendu Benjamin Péter.
Ça commence à venir là. Je tombe plus que deux ou trois fois par descente.
Régine est une habituée du ski alpin. Elle en fait depuis toute petite, mais pour la première fois, elle essaye le ski de fond.
On apprend. C'est beaucoup plus sportif que ce que je pensais. J'ai plus de facilité quoi, en ski alpin. Parce que là, de se retrouver débutant à plus de 50 ans, c'est dur.
Comme elle, ils sont très nombreux à louer des raquettes, des skis de randonnée, des luges. Alors Yves, qui habite la vallée, n'a jamais vu autant de monde sur le plateau.
Je suis venu hier, je suis venu aujourd'hui. J'ai dit je serai tranquille. Quand on arrive sur les parkings, tout ce monde, il y a un monde de fou. Moi, j'en reviens pas. Je suis venu mercredi. Dernier, il y avait du monde comme ça, quoi. C'était un truc de dingue, quoi.
Pour Georges Vignaud, le directeur de la station, cette affluence est devenue difficile à gérer.
Aujourd'hui, je pense qu'on dépasse les 1200 forfaits. Les semaines comme on a maintenant, ce sont des semaines qu'on vit pendant les vacances de février. On n'est plus en mesure, à un moment donné, d'assurer un service de qualité aux personnes qu'on accueille.
Et pour réguler le flux, à trois reprises déjà, dont samedi dernier, il a été contraint d'interdire la route qui mène à la station en milieu de journée. Au plateau de Baye, Benjamin Péter, Europe 1.
On va terminer ce journal avec ce qui est sans doute le livre le plus sulfureux au monde, mais c'est aussi malheureusement un morceau d'histoire, Mein Kampf, le pamphlet antisémite d'Adolf Hitler qui va être réédité en français cette année.
Oui, ce sont les éditions Fayard qui l'annoncent sans préciser la date exacte. Il faut préciser que le texte est tombé dans le domaine public il y a maintenant 5 ans. Nicolas Caro.
Mein Kampf, c'est le programme d'Hitler. Il l'écrit en prison en 1924 après son putsch raté. Il y déverse sa haine des Juifs et de ceux qu'il désigne comme les ennemis de l'Allemagne. Manifeste raciste, l'ouvrage n'est pas interdit en France, pas du tout, mais c'est un livre qui brûle les doigts, évidemment. Il est très difficile de le trouver dans une librairie. Inutile de le chercher à la 25e heure, par exemple, à Paris. Didier Rossillon, le libraire.
Si un client arrive et me demande Mein Kampf, je lui dis je ne l'ai pas en magasin et je lui dis de se le procurer auprès de l'éditeur, mais moi je ne le commande pas. Pour moi, ça n'a pas été un sujet depuis une éternité. Donc est-ce que ça va le devenir quand on va avoir la presse qui va arriver sur ces nouvelles publications Fayard? Peut-être. Pour l'instant, non.
Et oui, parce que Fayard ne publiera pas le livre tel quel. 1000 pages dont la moitié est en fait un appareil critique rédigé par des historiens. La version polonaise vient de sortir. Une autre édition critique a été publiée en 2016 en Allemagne. Le livre s'était vendu à 100 000 exemplaires.
Les explications détaillées de Nicolas Carreau sur cette réédition de ce livre très particulier, Mein Kampf, en 2021.
Merci beaucoup François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et à 8h13, nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Nos libertés sont-elles devenues des concessions du pouvoir? Allez, vous avez 4 heures pour y réfléchir. Non, rassurez-vous.
Vous n'avez que 2 minutes.
Quelle pression. En cette période de pandémie, l'État, nous a-t-il complètement infantilisé? C'est le constat de l'essayiste et professeur Mathieu Laine qui tire la sonnette d'alarme dans son livre « Restez à l'écoute, il en va de nos libertés » selon notre invité ce matin. A tout de suite.
Il est 8h13 sur
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Ce matin, Mathieu Laine, essayiste et auteur de Infantilisation, cet état nounou qui vous veut du bien aux presses de la Cité.
Bienvenue et bonjour à vous Mathieu Laine.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Vous êtes entrepreneur, professeur à Sciences Po, vous êtes un esprit libre qui n'est encarté dans aucun parti, mais qui a l'oreille de nombreux responsables politiques jusqu'au plus haut sommet de l'État. Vous êtes donc l'auteur, comme l'a dit Mathieu, de ce nouvel essai, et puis d'une dizaine d'ouvrages autour de la notion de liberté. Le nouvel essai s'intitule « Infantilisation, cet État nounou qui vous veut du bien » aux éditions Les Presses de la Cité, où vous décrivez à l'aune de la pandémie une mécanique de la privation des libertés et de la déresponsabilisation des citoyens que nous sommes. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous dire par quoi ça se matérialise? Nous donner des exemples.
Or, il y en a plein des exemples. Je pense que chacun l'a vécu dans sa chair pendant cette pandémie. D'abord, la manière dont on nous a parlé. Je trouve que cette façon de nous dire les papis, les mamies, de répéter en permanence des évidences. À la fin, il y avait un certain nombre de messages de base sanitaires qu'il fallait passer, mais les répéter en permanence. Une sorte de canteloisation de la vie, en quelque sorte. Hein, vous voyez,
oui,
la revue de presse ressemblait de plus en plus à la revue de presse. Et donc ça, c'est un vrai sujet, c'est qu'on a considéré qu'on était des enfants, des gens incapables. Et donc, il fallait nous répéter en permanence, comme dans 1984. Vous savez, il y avait les 2 minutes de la haine, maintenant, il y a les 24 heures du bien. Donc ça, c'est déjà... Le changement de la langue est préoccupant. Et puis après, il y a eu de multiples exemples, disons, dans nos vies. C'est-à-dire, c'est un peu ahurissant qu'on ait eu à écrire des auto-attestations pour faire le tour de chez soi. C'est un peu ahurissant qu'une femme qui est victime d'Alzheimer ait eu une amende parce qu'elle l'avait mal remplie ou que quelqu'un qui remplissait ça au crayon à papier soit sanctionné. J'ai trouvé ça complètement fou qu'on puisse aller bâcher un certain nombre de produits supposément non essentiels, ce qui est d'ailleurs une espèce de manque de considération pour tous ces produits, parce qu'on avait interdit d'aller dans les librairies et le livre au moment même où on avait des attentats et où il fallait défendre justement l'espèce de liberté de créer et d'écrire. Nous sommes un des rares pays à l'avoir fait en vérité. Hein. Nous sommes allés beaucoup plus loin que d'autres à cet égard et... Quand on nous interdisait, vous savez, au sortir du premier confinement, il y a des gens qui ont dit « Mais est-ce qu'on ne peut pas se mettre dehors des fleuristes qui n'avaient pas vendu de fleurs pendant 2 mois, juste pour vendre le muguet du 1er mai ?» C'était non. Est-ce qu'on peut vendre des sapins ? Attendez, il faut faire passer un décret. Mais vous pourrez acheter un sapin en extérieur, il fallait un décret pour ça, mais vous ne pourrez pas acheter les boules et les guirlandes. C'est une espèce de délire qui fait qu'à la fin, on a plus géré cette crise malgré nous qu'avec nous.
Ah, c'est très important. Et vous donnez ce matin, c'est très révélateur et édifiant, des exemples concrets, Mathieu Laine. Mais pourquoi, selon vous, alors, pourquoi on cède à cette infantilisation et à une sorte de fièvre maternante? Pourquoi?
Je pense que c'est un phénomène qui dure depuis très longtemps, en vérité. Et ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus de gens en ont pris conscience à la faveur de cette épidémie. Bien sûr, je ne suis pas là à dire que l'État n'aurait jamais dû intervenir. S'il y a bien un moment où il faut intervenir, c'est dans une épidémie. Et donc là, il y a bien sûr, pour freiner la propagation du virus, des libertés à restreindre.
C'est pas ce que vous dites. Hein. Vous êtes un libéral, mais vous n'êtes pas contre l'intervention de l'État en cette période si compliquée.
C'est bien le rôle de l'État de le faire. Voilà. Après,
et la manière de le faire. Non seulement la langue, comme je le disais, mais il y a un certain nombre de mesures. Pourquoi ? D'où ça vient ? Ça vient d'une espèce de bureaucratisation extrême de la vie, et par ailleurs d'une espèce de complexe de supériorité des élus et de la fonction publique, à considérer que parce qu'ils ont été élus et parce qu'ils sont à cette place, ils peuvent décider mieux, ils savent mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et puis en même temps, un phénomène auto-alimenté, c'est qu'à force de réduire les libertés de chacun et la capacité de responsabilité de chacun, ben on est gouverné par la peur et on se dit, ben, si on considère qu'on ne sait pas faire, on se retourne en permanence vers l'État et vers ces gens pour qu'ils puissent décider à notre place.
Alors il y a deux éléments très importants dans ce que vous dites, Mathieu Laine. D'abord, la prise de décision. Vous dites que les décideurs de cet État nounou pensent prendre des décisions au nom du bien. Mais en quoi est-ce critiquable ? En quoi est-ce inquiétant pour vous ?
Ben, on est tous d'accord qu'il faut aller vers le bien. Mais il y a quelque part quelque chose de très pernicieux parce qu'on n'a pas le droit de critiquer puisque c'est vers le bien. Et si vous regardez, c'est ce que j'essaie de faire. On prend un tout petit peu de hauteur. On regarde véritablement toutes ces mesures qui sont prises au soutien du bien. Et on se rend compte qu'il y a une réduction massive de nos libertés, un transfert vers le pouvoir d'un grand nombre de nos décisions. Et nous-mêmes, nous ne savons plus gérer nos vies. Nous ne savons plus être en capacité à gérer nos problèmes. Alors, la vraie difficulté, c'est que l'Empire Tocqueville a écrit des très belles pages là-dessus.
Oui, mais il a aussi dit le despotisme démocratique.
Oui, mais justement, à force de prendre l'habitude d'être débarrassé des libertés, le gouvernement devient le berger et nous sommes un peuple moutonnier. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Il faut réveiller les libertés individuelles. Pourquoi ? Parce que vous pouvez être le plus beau dirigeant de la Terre, vous pouvez être le plus intelligent du monde, vous n'aurez jamais cette intelligence suprême pour contrôler et comprendre l'intégralité de nos vies.
Donc, si on
rejouer la partie avec
Mathieu
tout le monde.
Parce qu'on prend ces décisions au nom du bien, il y a un risque. Alors, je ne sais pas si vous allez jusqu'à reprendre justement l'expression de Tocqueville sur despotisme démocratique, mais il y a le risque de cette tentation autoritaire alors qu'on prend des décisions au nom du bien.
C'est vraiment le chemin de servitude que je décris dans ce livre. Ça fait 15 ans que je réfléchis là-dessus. Et je me rends compte que à force de démissionner, à force de laisser des administrations qui sont à la fois très centrales et très morcelées prendre des décisions à notre place, nous finissons par perdre nos capacités personnelles. Et c'est vrai que cette démarche devient une démarche particulièrement despotique, parce que vous finissez par vous dire qu'il faudrait toujours plus d'autorité, qu'il faut intervenir toujours davantage pour nous protéger. Et il y a un moment, puisque la droite, puisque la gauche, puisque le centre font à peu près toujours la même chose, mais c'est une machine à déception parce qu'à force de proposer de nous protéger de tout, ben on n'y arrive jamais, et bien à un moment, on basculera dans une proposition extrémiste qui dira « mais moi, je vais vous protéger encore plus fort et on va serrer d'autant plus la vis ». Le totalitarisme soft deviendra du totalitarisme dur.
Évidemment, ça, c'est le risque, c'est que nos propres renoncements nous conduisent à délaisser nos libertés jusqu'à ce que vous décrivez, mais quelle est l'alternative ? Parce que derrière l'État, il y a une manière de le réinventer entre l'État absent et l'État omniprésent. Qu'est-ce que vous proposez, Mathieu Laine ?
Dans cet ouvrage, j'ai tout un chapitre où je suis allé regarder les publications académiques du moment. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de propositions très intéressantes, où on ne va pas essayer de régler cette difficulté avec du vieux socialisme ou du vieux libéralisme. Mais on va trouver cette espèce de corridor étroit qui s'appelle le Léviathan enchaîné.
Oula, vous voyez bien expliquez-nous.
Alors, l'État enchaîné. Ça veut dire quoi ? L'État, vous voyez bien que là, surtout à la faveur de cette pandémie, il est partout. Il y a un moment, il va falloir le faire revenir dans son lit. Quitte à le faire, il va falloir identifier ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire.
Mais qui doit le faire ? Qui doit dire ce que l'État doit faire ?
Il n'y a que le politique qui peut le faire. Il n'y a que le politique. La campagne présidentielle qui vient devrait avoir un seul grand thème principal, c'est quel est votre rapport à la liberté ? Qu'est-ce que vous allez nous laisser faire à nouveau ? Qu'est-ce que vous allez garder ?
Pour vous, ce sera le thème de cette campagne présidentielle.
Vous savez, quand on a le pouvoir, qui qu'on soit, on n'a pas envie de le rendre. Et quand, en plus, on a tellement délégué le pouvoir, on a peur de revenir dans la liberté. Il faut que chacun, chaque candidat, puisse nous dire comment allez-vous proposer le retour de la liberté à chacun.
Eh bien, créer un observatoire des libertés.
C'est une bonne idée.
L'occasion, justement.
C'est une bonne idée. Mmh. Un peu comme ceux qui défendent l'environnement, à la dernière présidentielle, avaient challengé, si je puis dire, tous les candidats sur ce qu'ils allaient faire. Mais en l'occurrence, l'État enchaîné, ça veut dire quoi ? C'est un État qui va venir travailler à ce qu'on puisse garantir les capacités d'émancipation de chacun. L'école, l'université, la formation professionnelle, aider véritablement ceux qui sont en fragilité, mais en revanche, accepter qu'il y a des décisions et un marché libre.
Sur le papier, c'est très bien quand je vous entends, mais pardonnez-moi, il y a une schizophrénie française à critiquer l'État qui nous infantilise et à demander, nous-mêmes, on demande toujours plus à ce même État.
Oui, c'est ça. Mais il y a une logique perverse, en vérité, dans l'infantilisation. Et je pense que c'est une grille de lecture qu'il faut analyser de très près, parce que vous avez, je ne veux pas faire de la philosophie, de la psychologie de comptoir.
Non, on veut du concret, parce que l'alternative que vous proposez, c'est très important.
Regardez, il y a une espèce d'addiction à la régression. En fait, c'est assez agréable, c'est assez confortable de faire décider à peu près tout par d'autres. Sauf que si vous vous habituez à ça, bah, vos libertés diminuent et vous ne savez plus vous comporter vous-même. Et donc c'est ça qu'il faut, c'est un mal contre lequel personne ne cherche de virus. Donc j'appelle le politique qui ne l'a jamais fait, hein, parce que le vrai patron, c'est la grande nurserie ou l'État nounou. Hein. Dès que vous êtes au pouvoir, vous en rajoutez dans la volonté de protection excessive. Oui. Donc il faut qu'on sorte de cette logique de précautionnisme. C'est une idéologie de la précaution, il faut s'en sortir.
Une idéologie de la précaution, vous allez jusque-là?
Oui, je pense que...
Est-ce que ce n'est pas parfois un peu trop extrémiste, pardon, dans le...
Au contraire.
Non, attendez, dans ce qui est libéral. Est-ce que le libéral que vous êtes, on peut le comprendre, hein, vous êtes un petit peu peut-être choqué par cet extrême interventionnisme de l'État et vous dites, bah, les libertés avant tout, avant de sauver des vies.
Non, précisément pas, parce que, encore une fois, je vous le disais, en l'occurrence, pour préserver des vies et l'égalité d'accès aux soins, j'étais tout à fait favorable à ce qu'il y ait des mesures restrictives de manière temporaire. Cela dit, je crois que ça va bien au-delà du côté libéral des choses. Beaucoup de gens de tous horizons ont bien perçu qu'il y avait un excès de bureaucratie, un excès d'intervention, qui, à la fin des fins, nécessite que l'on revienne à une forme de modération et d'apaisement, oui, de la relation entre le citoyen et l'État.
Un exemple concret que je vous donne, quand vous avez des ministres, des responsables qui se font perquisitionner, qui sont sous l'épée de Damoclès judiciaire, on peut comprendre qu'ils soient prudents.
J'entends.
On peut comprendre que l'État soit nounou.
Je pense que ça fait partie des choses qu'il faut changer. Je trouve que la responsabilité...
Mais vous avez une baguette
pénale,
magique?
Bah, vous savez, enlever la responsabilité pénale d'un Premier ministre, le politique peut le faire. Hein. Et donc ça, c'est des choses qu'il faudra changer. Parce que mettre de la responsabilité pénale sur un Premier ministre, vous le tétanisez. Et ça, c'est la précaution devenue idéologie. C'est du précautionnisme extrême. Donc l'extrême, c'est pas moi, c'est ce genre de mesures qui font qu'on fige toutes les décisions qui pourraient faire confiance aux citoyens.
Vous avez l'oreille de nombreux responsables politiques, y compris au plus haut sommet de l'État, Emmanuel Macron.
La décision est solitude.
Est-ce qu'il entend
cette... Écoute, on verra bien ce qu'ils en font.
Mais est-ce que vous pensez alors que le libéralisme d'Emmanuel Macron a été contrarié par cette pandémie inédite?
Alors, je pense qu'Emmanuel Macron, qui a fait, pour la faire courte, qui a commencé par le en même temps, qui a la faveur d'une pandémie, parce qu'il fallait bien réagir. Après, la critique est facile, hein, et l'art est difficile, mais a évidemment été dans le quoi qu'il en coûte, à y aller à fond. Cela dit, il faut tirer les leçons de cette pandémie. Ce qui est intéressant, c'est pas de critiquer au jour le jour, c'est comment on en sort et comment on en sort plus fort et meilleur. Et bien, il a une opportunité là de venir définir. Et s'il ne le fait pas lui, d'autres doivent le faire. D'ailleurs, tous doivent le faire.
D'autres,
quelle
vous
est votre définition de l'État?
D'Emmanuel Macron, Xavier Bertrand et tous les autres.
Hidalgo,
oui.
Etc. Que doit faire l'État demain? Que peut-on redonner comme confiance à chacun des citoyens? Cette capacité d'action des
citoyens.
Et ce sera
ça,
comment on fait pour
l'un
pour
des
la
enjeux de la campagne présidentielle.
Il le faut.
Alors, la liberté de caricaturer, je voudrais conclure sur ce sujet important. On peut ne pas aimer un dessin, on peut être choqué par le dessin autour de l'inceste du dessinateur Xavier Goerss, mais que vous inspire Mathieu Laine ce torrent d'insultes qu'il a reçu et le fait que le quotidien, Le Monde, ait dû s'excuser, ce qui a conduit d'ailleurs le dessinateur à arrêter sa collaboration de 19 ans.
Je trouve ça terrible, ces chasses à l'homme. Je trouve que c'est encore une fois un mécanisme d'infantilisation. Considérer que nous ne sommes pas suffisamment adultes pour avoir du recul, de l'humour. On peut ne pas aimer ou aimer un dessin, peu importe. Mais un dessin, c'est comme pour Charlie Hebdo, un dessin n'a jamais tué personne, un dessin n'a jamais violé personne. Et considérer qu'il y a une forme de moralisme qui monte sans cesse, on le sent bien, une espèce de moraline, comme disait Nietzsche, partout dans nos vies, pour qu'un État nounou vienne nous protéger contre nous-mêmes, y compris contre de mauvaises idées, soi-disant, ça devient de la police de la pensée, et ça, c'est vraiment dangereux.
On vous écoute avec attention, hein, avec Mathieu dans ce studio. Merci, hein, Mathieu Laine, auteur de cet ouvrage qui paraît aujourd'hui. Donc merci de nous avoir consacré cet entretien sur Europe 1.
J'étais très heureux d'être chez vous.
Infantilisation, cet État nounou qui nous veut, qui vous veut du bien. Et donc nous aussi, aux éditions Les Presses de la Cité. Bonne
merci
journée.
Merci beaucoup.
La décision est solitude.
Exactement.
Je retiendrai autour du conseil qu'on peut apporter à l'élite, aux chefs d'État, notamment.
Proposer, la décision est solitude.
Ce sont des réflexions pour les responsables politiques qui nous ont écoutés ce matin. On verra comment ils vont transformer tout cela.
Merci Sonia Mabrouk.
Merci à vous deux.
8h28, merci beaucoup, 8h28 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Le rappel de l'info, Hélène Zélani, la météo, Laurent Cabrol dans quelques secondes, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h30 sur Europe 1, le rappel de l'info avec Hélène Zélani.
Les États-Unis se réveillent ce matin avec un nouveau président. Joe Biden et sa femme sont apparus hier soir au balcon de la Maison-Blanche pour l'émission télévisée qui célébrait l'investiture. Joe Biden a une nouvelle fois appelé à l'unité, a demandé aux Américains de se rassembler. La soirée s'est terminée sur la chanson Fireworks chantée par Katy Perry sous un feu d'artifice dans le ciel de Washington. Washington, où nous retrouvons l'un de nos envoyés spéciaux, Xavier Yvon. Vous avez parcouru la presse américaine pour nous ce matin. Quelle est la tonalité générale?
Eh bien, regardez les unes de la presse, c'est comme si les journaux américains poussaient en cœur un ouf de soulagement. La démocratie l'a emporté. La phrase issue du discours de Joe Biden barre la une du New York Times et de nombreux quotidiens régionaux du pays. Amérique Tu peux respirer, écrit le Daily News. C'était un jour d'histoire et d'espoir, titre USA Today. La page Trump se tourne, mais maintenant le chemin, c'est l'unité, titre le Washington Post, reprenant là encore les mots du nouveau président. Biden parie sur l'unité, constate aussi l'éditorial du New York Times, qui liste les défis qui l'attendent. Une société inégalitaire, radicalisée, ravagée par une pandémie et une économie en ruine. Alors comment réconcilier cette nation déchirée, se demande USA Today. Avant tout, en améliorant la vie des gens, conseille le quotidien le plus lu du pays. Et le Washington Post conclut, le travail commence maintenant.
Merci Xavier Yvon à Washington pour Europe 1. Joe Biden s'est d'ailleurs mis immédiatement au travail. Il a signé 17 décrets, notamment le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat ou encore le port du masque obligatoire dans les bâtiments fédéraux. Aujourd'hui, premier entretien téléphonique avec un dirigeant étranger, le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Emmanuel Macron au chevet de la jeunesse. Le président se rend tout à l'heure à l'université de Paris-Saclay. Il passera par la maison des étudiants pour parler avec eux de leurs difficultés, de leur mal-être, alors que des manifestations étaient organisé hier dans toute la France. Emmanuel Macron devrait annoncer de nouvelles mesures d'accompagnement. Elles viendront renforcer celles qui existent déjà, comme ces étudiants référents payés pour épauler leurs camarades isolés en résidence universitaire. Virginie Riva a suivi certains d'entre eux dans une résidence du Crous à Paris.
Allô, Ousti, ça va ?
Oui, ça va.
Ça va, le confinement n'est pas trop difficile à vivre ? C'est toujours compliqué.
Mais on est obligé.
C'est ça, on n'a pas le choix. Hein.
Benjamin est étudiant référent. 4 heures par semaine pour 300 euros par mois. Il appelle, envoie des mails aux autres étudiants de sa résidence pour prendre des nouvelles, repérer les éventuelles détresses. Un atout pour Christelle Ogdé, directrice des résidences Crous du 20e arrondissement.
Ce sont des relais précieux qui peuvent me donner leurs sentiments et m'expliquer que certains étudiants ne vont pas bien puisque effectivement eux-mêmes sont étudiants. Ils comprennent beaucoup mieux, on va dire, les problématiques.
Dans cette résidence, aucun bruit. Tout le monde est derrière sa porte à écouter ses cours en Zoom. C'est le contact physique qui manque le plus. William, voisine de Benjamin, nous ouvre sa chambre. Tapis coloré, plantes, guirlandes lumineuses pour égayer ses 18 mètres carrés. Mais rien n'y fait.
Ça m'est arrivé de me mettre par terre et pleurer tout le temps parce que je me sentais un peu trop seule. Ouais.
Et les référents sont aussi chargés de rappeler aux étudiants tous les dispositifs qui existent, aide alimentaire, financière et bien sûr psychologique.
Et tout à l'heure à Saclay, Emmanuel Macron présentera également un plan d'investissement d'1,8 milliard pour les technologies quantiques, c'est-à-dire qui exploitent les propriétés surprenantes de la matière à l'échelon de l'infiniment petit. Dans les stations de ski, on s'y attendait, c'est désormais officiel, les remontées ne rouvriront pas le 1er février. Jean Castex va recevoir les professionnels de la montagne dans les jours qui viennent. On compte toujours plus de malades du Covid en réanimation, 2842 précisément, chiffre qui n'a cessé d'augmenter depuis 10 jours. La campagne de vaccination s'accélère nettement. Hier soir, plus de 692 000 personnes étaient vaccinées. Ce soir, sommet européen virtuel consacré à la lutte contre la pandémie. Il sera notamment question du fameux passeport vaccinal souhaité par la Grèce qui veut sauver sa saison touristique.
Merci beaucoup Hélène Zelani. 8h34, un mot de météo avec Laurent Cabrol.
Un petit mot pour vous dire que la première zone de pluie est passée, est en train de passer. On la retrouve maintenant vers Lyon, la Corrèze, la Gironde. Elle continue sa traversée de la France. Derrière elle, y a pas mal de nuages et des petites pluies. Et ensuite, il y aura une autre perturbation qui va arriver dans le courant de l'après-midi par les côtes atlantiques. Chaque fois, le vent se renforce, 110-120 km/h. Attention, soyez vigilants, hein, parce que dans les terres aussi, il y a du vent 70-80. Et sur les côtes, entre 110-120, je le disais. Mais ce sont des ingrédients qui vont nous accompagner maintenant jusqu'à dimanche, puisque nous avons pratiquement 5 perturbations à la clé. Peut-être même une petite tempête, mais enfin, on n'en est pas sûr du tout. Et pour le reste, eh bien, c'est de la pluie pour vraiment maintenant plusieurs jours. Et des risques d'inondation dans certains secteurs. On en reviendra, on en reparlera surtout. Les températures maximales entre 11 et 14 degrés. C'est doux, ça va baisser un petit peu. Dans le courant de la journée de demain après-midi et demain soir, nous allons voir les températures baisser.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Vous restez bien sur Europe 1. Dans un instant, on prend soin les uns des autres, notre planète avec Fanny Agostini. Mais avant cela, notre santé, le docteur Jimmy Mohamed et le retour de la gastro. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h37 sur Europe 1, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Avec les gestes barrières, il y a eu, je crois, hein, en dehors du Covid, beaucoup moins d'épidémies virales. Et vous m'aviez confié, Jimmy, que vous recommencez à voir
des gastro-entérites.
Ah oui, c'est vrai qu'avec les gestes barrières, cette année, c'est une année particulière. Alors évidemment, il y a le coronavirus, mais on n'a plus vu de rhinopharyngite, quasiment pas de bronchite, ni de bronchiolite. Et l'épidémie de grippe, pour l'instant, elle n'existe pas. En revanche, ce qu'on peut voir en ce moment, c'est des gastro-entérites chez des enfants, mais aussi chez des adultes. Alors, vous allez me dire, on a un masque, on fait attention, on ne devrait pas tomber malade, c'est vrai, mais sauf qu'on oublie, la gastro-entérite se transmet essentiellement par les mains. Encore une fois, vous allez me dire, mais on ne se serre pas la main, on reste à distance. Tout au plus, on fait des petits checks de coude, donc on ne devrait pas tomber malade. Le problème, c'est que cette gastro-entérite, vous avez plusieurs virus. Vous avez du rotavirus qui donne des petites épidémies chez les enfants. Vous avez un autre virus qui s'appelle le norovirus. Il donne aussi des épidémies, mais il est extrêmement résistant. Il survit à des températures extrêmes allant de moins 20 à plus 65 degrés. Il résiste à des concentrations de chlore assez importantes. Et surtout, il va rester dans l'environnement durant 2 à 3 semaines. Ça veut dire que sur un bouton de chasse d'eau, sur la lunette des toilettes, la poignée de porte, un robinet, des aliments ou même de la vaisselle, eh bien, en touchant non simplement.
Là, simplement, j'ai un stylo à la main. Là. C'est tout bête, les stylos dans une entreprise, ça circule, ça se balade. Là, imaginons que j'ai la gastro et que je ne le sache pas. Dans 2 semaines, quelqu'un prend ce stylo, il l'attrape.
Exactement. Si on n'a pas désinfecté le stylo et si on ne sait pas laver les mains, c'est pour ça qu'il faut se laver les mains. Et cerise sur le gâteau, la gastro-entérite n'est pas une maladie immunisante. Pendant quelques temps, on va l'éviter, mais au bout de quelques semaines ou quelques mois, vous pouvez de nouveau l'attraper et donc on remet une pièce dans la machine.
Bon, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques réflexes à avoir, Jimmy, pour traiter une petite gastro quand ça arrive ?
C'est vrai que ça paraît trivial comme ça, mais je vous assure que les gens ne savent plus traiter une gastro-entérite. On a tellement parlé de coronavirus qu'on ne sait même plus quoi faire quand on a autre chose que le coronavirus. Alors, le principal risque dans la gastro, c'est la déshydratation. Rassurez-vous, ça ne va pas vous toucher, vous, Mathieu, vous serez un peu incommodé, mais ça va toucher des personnes avec des âges extrêmes de la vie. Les nourrissons, les bébés et les personnes âgées qui vont dépendre souvent des autres pour s'hydrater. Donc il faut boire et n'hésitez pas à voir votre médecin traitant.
Parce qu'ils ne ressentent pas la soif.
Ils ne ressentent pas la soif, exactement. Donc consultez votre médecin traitant, appelez SOS médecin, peu importe si vous avez un doute. En tout cas, il faut vous hydrater, surtout ne prenez pas des sodas. Les boissons sucrées gazeuses, elles sont trop sucrées, elles sont diurétiques, c'est-à-dire qu'elles vont vous faire pipi, donc vous allez perdre de l'eau. Elles ne sont pas assez salées, donc buvez de l'eau. Mangez un bouillon, prenez du riz, des bananes, des carottes, ça permet de ralentir le transit. La banane, c'est très bon parce que c'est riche en potassium. Et souvent, quand on la gastro, on perd du potassium. Souvent, on me demande s'il faut manger des yaourts avec plein de probiotiques. C'est pas le moment de manger des yaourts.
C'est juste après.
C'est après, exactement, pour refaire la flore digestive, éviter le lactose.
Je suis pas mal en gastro quand même.
Vous êtes pas mal.
J'ai 3 enfants, monsieur.
Ah oui, j'allais dire, vous auriez pu prendre ma place, Mathieu. Bah, je vous laisserai faire la chronique la semaine prochaine, alors, dans ces cas-là. Mais effectivement. Et avec tous ces petits conseils, et surtout lavez-vous les mains, on évitera d'avoir ces petites infections virales.
Le gel hydroalcoolique, et puis l'eau et le savon. Hein.
Tout simplement.
À l'ancienne,
la base,
comme on dit.
Hein.
Ça marche toujours. Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1 qu'on retrouve de 15h à 16h tous les jours. J'allais dire notre santé. Non, sans rendez-vous avec Mélanie Gomez tous les jours sur Europe 1. 8h40, Fanny Agostini est avec nous. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Notre planète. Et ce matin, Fanny, vous nous parlez de l'initiative Shift Your Job pour allier travail et écologie.
Ben oui, parce que c'est vrai que nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir trouver du sens à notre travail, et c'est normal. Et aussi à vouloir de plus en plus ne pas travailler pour des entreprises qui n'intègrent pas la préoccupation environnementale. Mais comment s'y prendre pour transformer la structure dans laquelle on travaille de l'intérieur? Ou alors, eh bien, si c'est peine perdue, comment tout simplement changer d'employeur? C'est ce que propose l'initiative Shift Your Job, qui veut dire change ton emploi en français. Ce sont les bénévoles du groupe de réflexion The Shift Project qui dressent tous les jours une cartographie des structures qui s'engagent pour le climat et la biodiversité. Vous trouverez, si vous y allez sur le site, une longue liste d'entreprises, de leurs filiales, d'associations aussi, ou encore d'institutions publiques qui sont répertoriées pour leur engagement en faveur des enjeux écologiques.
Alors comment rejoint-on une entreprise recensée et y en a-t-il suffisamment pour tout le monde ?
Alors, le site, bonne question. Le site regroupe pour l'instant 1200 organismes répartis en fonction de leur secteur d'activité. Énergie, services, bâtiments, conseils ou alimentation, par exemple. Il y a du choix, car en tout, 12 secteurs et 300 sous-secteurs. Le site permet de consulter des informations sur l'engagement de l'entreprise et voir si celle-ci est réglo, c'est-à-dire quelles émissions de gaz à effet de serre elle émet, des chiffres sur la pollution, leurs interdépendances avec les autres secteurs. Le site présente tous les critères d'évaluation permettant aux usagers de comprendre pourquoi ces entreprises sont vertueuses. Pour chacun des 1200 acteurs, on trouve ensuite les types de métiers dans l'entreprise. Et puis après, bien c'est aux internautes de rechercher les offres d'emploi dans ces entreprises sur les sites classiques qui les agrègent, car Shift Your Job ne remplace pas ces moteurs de recherche d'emploi.
Alors c'est une petite pépite pour trouver le job parfait pour allier travail et transition écologique.
Alors, l'ennui, c'est que le site Shift Your Job ne garantit évidemment pas d'obtenir un nouvel emploi. Il faut postuler et convaincre. Or, nous sommes bien trop nombreux sur le marché du travail pour pouvoir tous exercer dès demain un métier qui a du sens. En revanche, pour commencer à changer, il faut bien prendre conscience des opportunités, créer une demande et permettre aux salariés de savoir où chercher. En ce sens, on peut dire que cet outil apporte un service précieux à la transition écologique du travail. C'est vraiment une bonne base pour commencer à faire vos recherches, pour vous projeter dans un travail avec plus de cohérence, avec vos valeurs et éviter ce que les psychologues appellent la dissonance cognitive, c'est le fait de vivre dans la contradiction et qui est souvent un facteur déclenchant des burn-out.
Merci Fanny Agostini. Notre planète, tous les matins, notre planète et notre emploi aussi finalement ce matin. Fanny Agostini sur Europe 1, 8h43. Oui, il est déjà 8h43. Dans quelques secondes seulement, la revue de presse, Nicolas Canteloup et Julie qui s'installent.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h46, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, Mathieu Béliard pour le rappel de l'actu.
Eh oui, bonjour Julie, bienvenue sur Europe 1. Si vous venez nous rejoindre, l'actualité, l'info du jour, c'est le monde entier qui s'interroge. Que signifie cette phrase de Donald Trump ? D'une manière ou d'une autre, je reviendrai. Eh bien, accrochez-vous bien, il se pourrait que ça signifie qu'il compte revenir. Et oui, je sais l'analyser. En bluff plus d'un, en particulier Laurent, mais dès que vous hésitez la prochaine fois, demandez-moi. Eh oui, il revient ou il ne revient pas, il ne peut pas faire les deux.
Les deux, mon général.
Ah, voilà. Oh oui, ma chérie, j'ai tout ça pour ça.
Après
oui,
m'écouter Julie. À 7h25. Hein,
oui, mon Mathieu, oui, j'ai parlé de cette expression, les deux, mon général. C'est ma formule ce matin. Vous avez aimé ma blague ? Avec le type qui fait son service militaire, il doit répondre les deux à la question générale. Et le général lui dit, vous me prenez pour un abruti ou un crétin ? Et l'autre de répondre, les deux, mon général.
On est mort de rire.
Ah, c'est super ce matin. On se raconte des blagues. Des bidasses en folie. Oh, c'est fou. Attendez, mais oh, ça vous plaît ? Oui, j'en ai une autre. Vous savez ce qui n'est pas un steak ? Une pastèque. Oh, oh non, oh, je me ris dessus. Oh, une autre, oh, puisque ça plaît. Vous savez comment on ramasse la papaye ? Non. Avec une foufourche.
Oh. Ça
attendez,
marche,
attendez.
En fait.
Mais c'est les
attendez, j'en ai une. Attendez, j'en ai une sympa. L'histoire d'un aveugle qui rentre dans un bar, puis dans une table, puis dans une chaise. Ça vous plaît aussi ?
Attends, j'en ai une super. On ose moins rire, là.
Alors attendez, c'est un Américain, un rabbin et une pute qui sont dans un ascenseur. Et là...
Qu'est-ce que c'est ?
Oui, merci Stéphane. Et oui, merci. Demain, je vous ferai l'expression « l'humour à deux balles ». D'où vient cette expression ? Oui, merci Stéphane. Et puis l'actualité, c'est aussi ce chiffre étonnant. Le taux de natalité est le plus bas en France depuis 1945. Et ça, c'est une info.
Ah, oui.
Oui, bonjour. C'est une info, vous avez raison. Bonjour, c'est Dominique Normantique. Toutefois, cher Mathieu Béliard, je suis Claire, je suis Gabriel. Aujourd'hui, ce n'est pas le spécialiste de l'amour courtois qui vous parle. Non, c'est l'économiste. Car une natalité faible, c'est une croissance en berne, n'en doutons pas. Or, nous avons déjà la pandémie qui nous frappe économiquement. Comment régler ces deux problèmes ? Eh bien, j'appelle le laboratoire Pfizer à mettre dans chaque dose de vaccin, oui, une dose de Viagra. Minime, mais il faut une dose. C'est ainsi que l'on paiera les retraites de nos petits.
C'est ça, oui.
Merci. Merci, monsieur Strauss-Kahn, pour ce conseil économique. Et scientifique, quelque part. Et puis l'autre info. Quelque part, c'est... Et oui, c'est l'économie quantique, quelque part. Et puis, l'autre info, ce sont ces 73 experts français qui recommande de donner, tenez-vous bien, de la vitamine D, tout simplement de la vitamine D. Et ça, Jimmy Mohamed ne nous en avait pas encore parlé, mais peut-être ce sera la chronique de demain. La vitamine D à la population pour protéger du coronavirus.
Mm-hmm. Ouais, salut July.
Salut Mathieu, salut les loups.
Nikos.
Oui, c'est moi. Salut ma Julie, Nikos. Tu m'as reconnu. Oui, c'est Nikos. Nikos, la vitamine D fait homme. Vous connaissez mon énergie, mon dynamisme chargé de soleil grec. Oui, je suis orange, ça se voit à l'image, je suis effervescent. Je transpire de la vitamine D et je synthétise des anticorps. Alors, si vous voulez être protégé, je vous propose, dès demain, de vous postillonner dessus. Vous mettez en face de moi Tu connais ça, Julie, on a fait une saison ensemble. Vous êtes en face de moi et je vous parle fort, face au visage pendant 3 minutes. Oui, mais vous ricanez, Julie, mais en attendant, il n'y a pas un malade dans les candidats The Voice. Pas un seul malade. Ouais, ouais, c'est ça.
C'est QFD. Bravo, Nico. Allez. Joe Biden est désormais président des États-Unis. Donald Trump a quitté la Maison-Blanche hier. Bonjour, Jean-Michel Apathy.
Et bonjour, ma chère Julie. Bonjour à mon collègue rouleur de R, Mathieu Béliard. Paul Lasserre. Tout le monde est là. Ça y est, c'est fait. Joe Biden est désormais président des États-Unis d'Amérique. Joe Biden, qui était accompagné, vous l'avez noté, de Lady Gaga, vous avez vu, pendant que Donald Trump, lui, était accompagné d'une dizaine de supporters avec des casquettes Make America Great Again. Make America Great Again, c'est quoi les initiales? C'est MAGA.
Donc, MAGA, ah oui, MAGA, ouais.
Voilà, qu'on a donc baptisé Lady MAGA. Lady MAGA,
Lady
c'est
MAGA,
un acronyme.
Lady Gaga. Lady Gaga. Oh là là là.
Oui, demain, je vous ai parlé de l'humour carambar. D'où vient cette expression? Bon, alors.
Bon, là, hein, le MAGA, Lady MAGA, et bon. Alors, Washington était protégé par un impressionnant dispositif militaire. Du coup, bah, il n'y a eu aucun incident majeur.
C'est vrai, on est resté un peu frustré sur notre, on est un peu resté sur notre fin. Après l'envahissement du Capitole, c'est vrai que les scénaristes, il faut bien le reconnaître, ont été feignants. Ils ont été feignants. Ils se sont reposés sur la présence de Lady Gaga et de Jennifer Lopez. Ça fait un joli casting, mais pas beaucoup d'action. Pas beaucoup d'action.
Alors, Joe Biden a annoncé le retour des États-Unis dans l'accord de Paris, la fin du Muslim ban, la fin de la construction du mur avec le Mexique, la lutte contre le coronavirus. Voilà, il a son programme.
Et oui, Joe Biden a le métier le plus facile du monde. J'en parlais avec Dominique Simonin, un camarade de journaliste. Il a juste à regarder ce que fait Trump. Et il fait tout l'inverse, tout simplement. Et hop, et on ne se foule pas. Trump ne voulait pas des masques, Biden va en mettre. Trump construisait un mur avec le Mexique, Biden va le détruire ou arrêter. Trump a fini son mandat très impopulaire, Biden va mourir avant de finir le sien. Mais tout le monde l'aimera bien. C'est ça, il fait tout l'inverse. Au bout de 4 ans, les États-Unis, je vous le dis, seront revenus en 2012. Le mandat de Trump, il en restera rien.
La signature de Jean-Michel. À bientôt, Jean-Michel Apathy. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a publié un livre. Il s'intitule « L'ange et la bête ». Et on accueille son auteur. Bonjour, monsieur le maire.
Oui, bonjour, madame Julie. Bonjour, monsieur Paul Lassène. Bonjour, monsieur Béliard. Et bonjour à vos aimables sous-fifres. Écoutez, oui, il n'y a pas de débat. Ah. Comme la période est calme, on n'a pas grand-chose à faire. J'ai pris, oui, le temps d'écrire ce livre de 350 pages.
Vous dites pas grand-chose à faire en pleine pandémie mondiale, mais enfin, comment vous avez eu le temps d'écrire tout ça?
Mais madame Julie, c'est la méthode Cabrol, c'est une question d'organisation. Moi, je me lève très tôt, de 5h du matin à 9h, j'écris mes mémoires. Je suis tranquille. Ensuite, je me douche. Quelques pompes pour avoir ce corps magnifique. Vous pouvez tâter. Un yaourt et je file au... Oui, c'est parce que c'est probiotique. Oui, monsieur Jimmy Mohamed. Je n'ai pas de gastro. Moi, j'ai droit au yaourt. Et je file au ministère où j'attaque ma journée à sauver la France de la crise. Et ensuite, de retour chez moi, j'écris mon deuxième livre. Car en juin, je vous le dis, je sors Bruno Le Maire, mes recettes minceurs pour l'été. Mais la journée n'est pas finie. Là, sur les coups de 3 heures, j'attaque une bonne nuit de 2 heures de sommeil.
Oui, bon, allez, c'est bon.
En phase avec Emmanuel Macron.
Alors, dans ce livre, vous dites, après le confinement, pendant mes vacances sur la côte basque, partout, des patrons de café, des restaurateurs, des salariés, des indépendants se rapprochaient de moi, vérifiaient qui j'étais en me fixant d'un regard soupçonneux qui semblait dire « Est-ce que c'est vraiment lui ?» Puis, encouragé par mon silence, il glissait « Merci pour ce que vous avez fait. »
Oui, tout à fait. Ça me touche.
Vous
encore,
tout
je,
ça. Hein.
Même je ne raconte pas tout, parce que je suis un homme pudique. C'est mère de famille qui m'a apporté aussi des gâteaux. Ces filles qui m'amenaient des bijoux sur des coussins. Ces hommes qui m'offraient de féconder leur femme.
Oh, dis donc
Non, mais écoutez, je ne suis pas là pour me vanter, je le dis très modestement. Mais le fait, c'est vrai, d'avoir sauvé tous ces gens, ça me rend fier. Le fait de donner tout ce que je peux, comme je le peux. C'est, même si je n'ai fait que mon devoir, comme Jésus, vous savez.
Oui, c'est ça, oui, mais également. Comme Jésus. Allez, on vous laisse, va. Merci, monsieur le maire. On n'en a pas encore reparlé, mais Jean-Marie Le Pen vient de se marier. À 92 ans, le fondateur du Front National a épousé religieusement Jeannie Le Pen. C'était le week-end dernier.
Oui, Shabanavada, n'est-ce pas ? Oui, bonjour, madame Leclerc, et bonjour, Métis Béliard. Bonjour au Pimpin Laurent Cabrol, et bonjour docteur Mustapha Brad Pitt.
On l'avait pas eu encore celui-là.
Écoutez, je ne suis que joie ce matin, et d'où cette inspiration ludique. Et je ne suis que papillon et fleur des champs. Et l'amour, Mme Julie, il n'y a que ça de vrai. Vive la tendresse, n'est-ce pas ?
Bah oui, bien sûr, on est tous d'accord. Mais racontez-nous, comment ça s'est passé, ce mariage ?
Écoutez, et le jouvenceau que je suis, enfin osé, oui, sauter le pas. Et j'ai mis du temps à me décider, car c'est un engagement fort. Et car, vous l'avez vous sans doute remarqué, je suis de naturel timide et réservé.
Oui.
Si, ne riez pas. Vous voyez, derrière le menhir, plein d'assurance, il y a un petit garçon avec un cœur gros comme ça, et qui a peur, oui, de dire cette phrase « Je t'aime ».
Nous sommes,
donc, Jeannie et moi, rentrés dans l'église. Le curé de fonction, n'est-ce pas, m'a demandé si je voulais épouser Jeannie. J'ai dit oui. Et là, le curé m'a dit, vous êtes désormais donc propriétaire de la mariée.
Propriétaire ? C'est quoi ça ? Mais elle ne donne pas son consentement, elle.
Consentement ? Et pourquoi faire ? Pourquoi je voulais l'épouser, c'est désormais chose faite. Voilà, ensuite, nous avons fait une soirée festive, dansante, une soirée dansante et sur des marches militaires, n'est-ce pas ? Et j'avais ma playlist. Et puis nous avons dîné d'une bonne choucroute qui a mis d'humeur quelques convives. Et nous avons fait remonter le taux de natalité. Voilà, quelle soirée ! Je me sens comme si j'avais 20 ans. Ah là là, Shabadabada, Shabadabada.
Oui, allez, c'est bon.
Et c'est juste. Merci Nicolas, bravo Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presque à réécouter sur Europe1.fr. Saluons Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche, les auteurs de Nicolas. 8h57 sur Europe 1. Philippe Vandel est avec nous, Culture Média, la matinée continue sur Europe 1.
Oui, bien sûr, bonjour Mathieu.
Bonjour, ça va Philippe?
Mais ça va très bien. Dans notre info média du jour, vous avez regardé votre fiche Wikipédia? On va en parler, 500 millions de visiteurs par mois. Comment expliquer un tel succès alors que les sources ne sont pas toujours fiables ? On en parle avec un expert, c'est Rémi Matisse, il est historien. Et il publie aujourd'hui Wikipédia dans les coulisses de la plus grande encyclopédie du monde. C'est un ouvrage, c'est First. Au sommaire également, Molotov, la plateforme française de streaming. 13 millions d'utilisateurs qui va se lancer à l'international. On sera avec son cofondateur Jean-David Blanc et le nouveau directeur général Grégory Samak. Et puis Fred Testo, le Fred d'Omar et Fred. Il est dans la série 5, il est d'ailleurs depuis le début dans Sam, la série qui cartonne sur TF1. Il y aura même une 6e saison. Et plein d'autres choses à nous raconter.
Culture Média, la matinée continue avec Philippe Vandel sur Europe 1 de 9h à 11h. Je vous laisse, je vous souhaite une très très belle journée. Je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.